I'm Sandra, and I'm just the professional your small business was looking for. But you didn't hire me because you didn't use LinkedIn Jobs. LinkedIn has professionals you can't find anywhere else, including those who aren't actively looking for a new job, but might be open to the perfect role, like me.
In a given month, over 70% of LinkedIn users don't visit other leading job sites. So if you're not looking on LinkedIn, you'll miss out on great candidates, like Sandra. Start hiring professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com/people today.
Ah, on va le cache.
Il y a longtemps que vous êtes là?
Ouais, c'est on va l'abonner.
C'est un Z140 que t'as là. En titane allégé, le modèle d'assaut à charge neuroactive.
Ouais.
J'ai de la chance qu'il soit pas chargé.
Bienvenue dans ce nouvel épisode de TFTC, le podcast. À mes côtés dans ce studio, Guillaume et Aurélien, comment allez-vous les mecs?
Eh bah ça va et toi?
Ça va et toi?
Est-ce que vous êtes en forme?
Bah oui.
Ah, on est très en forme, et toi alors?
Moi j'ai mangé juste une banane aujourd'hui.
Ah. Et surtout t'as fait du sport.
Oui, j'ai fait du sport ce matin, et là où on tourne il est 18h et quelques, j'ai mangé une banane seulement. Voilà. Faut que je vous donne.
Faut nourrir les biscottos.
Bah oui, les biscottos faut les nourrir. Évidemment. Aujourd'hui nous avons le plaisir de recevoir Sarah Aoi. Comment vas-tu?
Écoute, ça va. Je pense que ça va mieux que toi, car actuellement, je ne suis pas en hypoglycémie. J'ai mangé des pâtes ce midi.
C'est bien, je vois qu'Evan dès le début, j'aime bien. Sarah, est-ce que tu peux te présenter pour ceux qui ne te connaissent pas?
Eh bien, je m'appelle Sarah Roury, je suis journaliste mode. Je suis actuellement récemment freelance. Je pense que les gens m'ont connue majoritairement sur le média Bouscapé. Et aujourd'hui, j'essaye de continuer mon petit chemin de mon côté. Je pense que c'est la pire intro.
Il y a eu pire.
Tu couperas ça. Je la refais.
Alors attention, dans ce podcast, on ne coupe
on
rien.
On ne coupe rien.
Ah non.
Rien du tout.
Ah non.
Rien. On est à la recherche du bad buzz chez les invités. Donc on ne coupe rien.
Je vais racheter ce studio, les amis.
Non, alors oui. Non, mais tu t'es très bien présenté. C'est très bien tout ça.
Ouais.
Alors pour.
Vous coupez vraiment rien dans ce podcast.
Non. Elle est en panique. Non, mais alors, je vais vous dire une chose. Non, ça par contre, je dirai.
Ah, bah alors,
je dirai après. Dans cet épisode, nous allons nous pencher sur le plus grand succès au box-office de l'année 1997 en France, à savoir Le Cinquième Élément. Sorti en 1997, donc, et réalisé par Luc Besson, Le Cinquième Élément, malgré des critiques mitigées à sa sortie, a depuis atteint le statut de film culte. Encore à ce jour, un des plus gros succès à l'international pour un film français, Le Cinquième Élément raconte l'histoire d'un ancien militaire, Corben Dallas, qui voit arriver sur son chemin une jeune femme se prénommant Lilo, censée être le cinquième élément pouvant empêcher les forces du mal de triompher. Ce film, au casting impressionnant, Bruce Willis, Gary Oldman, Mila Jovovich, Chris Tucker, Ian Holm, Mathieu Kassovitz, Mai Wen, etc., a obtenu 3 Césars en plus de glaner une nomination aux Oscars. Alors la traditionnelle question qui ouvre ce podcast, quel est votre premier souvenir lié à ce film? Et je vais commencer avec Sarah. Dans quel contexte as-tu vu ce film pour la première fois?
Alors, quand il est sorti, je crois que j'avais 3 ans, donc je ne l'ai pas vu à sa
chance.
La chance.
J'avais déjà 45 ans à cette époque. Non, ouais, j'avais 3 ans, donc moi je pense que je l'ai vu quelques années plus tard, vers l'âge de 8 ans, quelque chose comme ça. Et à cet âge-là, j'allais dans le bureau en fait, de mon père, où il y avait une bibliothèque avec plein de cassettes VHS, quoi. Et il enregistrait plein de films qui passaient à la télé. Et donc j'avais, je pense, 4 cassette que je regardais régulièrement. Il y avait The Mask, il y
pas
avait
mal.
Un flic à la maternelle.
Oui.
Ah. Il y avait Jack.
Ça, c'est un film réconfortant, un film doudou, un flic à la maternelle.
C'est vrai.
Bah oui.
C'est vrai.
Jack. Non, parce ouais. que hors antenne.
Jack, j'ai plus de préférence pour Jack.
Bon, enfin là, tu la pètes, mais hors antenne, t'as dit que ton film doudou, c'était Chouchou de Gad Elmaleh.
Je comprends pas pourquoi on est pas en train de faire un podcast sur ce film. Ce film est sous-coûté.
Sous-coûté.
Il est sous-coûté.
Il est sous-coûté.
Il est sous-coûté.
Mais
vraiment. Attends, c'est bien, j'aime bien.
Regardez ça.
Ça dérape.
Sous-coûté. Oui, ça va, donc Jack.
Jack. Et donc, le quatrième film que je regardais très régulièrement, c'était donc Le Cinquième Élément, que je regardais sur une petite télé dans la chambre de mon grand frère. C'est la petite télé bleue avec le coffre derrière immense. Et voilà, c'est comme ça.
Jack, c'est le film de Coppola avec Robin Williams.
Exactement.
Très sous-coûté, ce film.
Très sous-coûté.
Très sous-coûté. Guillaume, ton premier souvenir lié au Cinquième Élément?
Vous voulez que je vous donne un bon souvenir?
Ouais.
Puisque je l'ai vu qu'une fois. Et vous savez pourquoi? Parce que je l'avais jamais vu. Et en fait, je l'avais jamais vu. Et il y a 5 ans, je travaillais au Divan du Monde et il y a une meuf du Divan du Monde qui dit mais t'as jamais vu le cinquième élément, et elle me l'a offert en cadeau. Elle m'a fait, la semaine d'après, elle m'a offert le DVD du cinquième élément. Mmh. Du coup, je l'ai regardé. Bon, je suis désolé de vous décevoir. C'est une des premières fois où on fait ça. Je n'aime pas ce film.
Alors attends, je vais enchaîner. Je vais enchaîner sur toi, Guillaume.
Je n'aime pas ce film.
Attends, Guillaume, Bruce Toussaint, je vais enchaîner sur toi.
J'étais obligé de dire à la dame qui m'a... Enfin, la dame, la fille qui m'a
la
fait
dame.
Le
la fille qui la m'a dame, fait la dame du CDI.
Elle a dit, alors, j'ai dit, ah, je sais pas, ouais, je trouvais ça sympa, je sais pas. En fait, quand tu le vois un peu, bon, on en parlera après.
Alors vas-y. Attends, moi, j'ai vu ce film au cinéma. J'avais pas 3 ans, hélas. Je l'ai vu au cinéma. Et en fait, j'ai un problème avec ce film, je l'ai jamais aimé. Et je l'ai revu pour la deuxième fois.
Ah ouais, mais on est pas bien, là.
Non, mais attendez, je l'ai revu pour la deuxième fois hier soir.
Ok.
Ok.
Location pour te dans l'ambiance.
Location de 3,99€.
Oh. Oh, tu l'as pris en HD.
Même pas en plus.
Ah ouais, même pas.
Et j'avais pas le choix, c'était que en français, et c'est même pas Patrick Poivet qui fait la voix de Bruce Willis.
Ah bon.
C'est la voix, c'est la VF de Bill Murray.
Ouais. Ouais. Oh.
Les rumeurs disaient que c'était Luc Besson qui voulait pas. Que soit Patrick Poivet, parce qu'il avait des... Tu sais, c'est un peu l'époque comme dans Friends où les doublures avaient des grandes ambitions salariales.
Ouais,
tu vois. Bon bref, c'est un peu un délire comme ça. Bref, et en fait, je l'ai revu hier soir pour la première fois, depuis 97. Et je sais pas, j'arrive pas à aimer ce film, quoi. On va en parler après, mais voilà, mais je l'ai vu au cinéma, je l'ai revu hier. Toi, Aurélien, dans quelles conditions ?
Moi, je l'ai vu au cinéma à sa sortie. Malheureusement, j'étais majeur. Non, ouais, tout juste, je pense. Moi, j'en ai un très bon souvenir, mais parce que voilà, j'avais 17-18 ans, c'était Bruce Willis. Je trouvais ça assez fou, genre de faire de la science-fiction à ce niveau en français, tu vois. Enfin, en France, quoi. Et le casting américain avec mélangé avec des Mathieu Kassovitz, avec des Français et tout, c'était quand même assez fort. Après, bien sûr, c'était énormément. Enfin, en fait. Peu de temps avant, j'avais vu Stargate. Je sais pas si vous vous rappelez ce film. Et je trouvais qu'il y avait énormément de points communs. Le
film qui a mal vieilli. Hein. J'avais Stargate. Adoré à sa sortie. Je l'ai revu il y a pas longtemps. J'étais là genre waouh, pourquoi j'ai adoré quand j'étais petit.
Bah moi ça va. Je trouve ça mieux vieilli que le cinquième élément. Mais il y avait quand même des trucs forts dans le cinquième élément. Je trouve qu'il y avait pas mal de personnages qui étaient forts. Et Bruce Willis, c'est charmé. Et le taxi volant quand même, c'était un bon délire. Tout le début, et j'en ai des très bons souvenirs. Tu vois, de la ville, ouais. De l'appartement, tout ce truc-là, je trouvais ça quand même. Très bien foutu, et j'en ai toujours des bons souvenirs. Et Chris Tucker, quand même. C'est green, quoi, les gars. Quand j'étais jeune, c'était vraiment trop
moi,
cool.
En fait, je sais pas, j'ai jamais aimé l'esthétique du film. Tu sais, toutes les couleurs orange et tout. Je sais que l'esthétique est particulière, tu vois. Ouais. Mais toutes les couleurs orange, je sais pas, il y a un truc que j'aime pas trop. Même la bande-son, je l'aime pas trop.
Les cheveux jaunes de Bruce Willis, non?
Non, je sais pas, il y a tout un ensemble qui me déplaît. Ouais. Et hier, je l'ai revu. Alors, forcément, j'avais pas ces réflexions-là quand je l'ai vu au cinéma et que j'étais ado. Mais hier, je me suis dit quand même. C'est quand même pas mal pompé sur Star Wars, sur Blade Runner.
Sur Metal Hurlant,
sur l'univers de Mobius. C'est, en fait,
mais en fait, après, pour mettre dans le contexte, il a bossé vraiment.
Oui, d'accord, mais en fait, je me suis renseigné sur pas mal de choses après l'avoir vu hier soir.
Ouais.
Et il y a un truc assez drôle quand même qui revient, c'est qu'à chaque fois, Luc Besson dit « Ah non, mais je me suis inspiré de ça. » Et puis je me suis inspiré de ça aussi, tu vois. Mais tu sais, au bout d'un moment, quand il y a mis l'inspiration, bon, bah, c'est des petits plagiats un peu partout. Là, il y a...
C'est comme Tarantino. Moi,
je vois ce que tu veux dire, mais sauf que là, c'est assez précis quand même. Exemple, à un moment donné, il y a la secrétaire de Zorg dans le film.
Ouais.
Qui se fait les ongles avec un truc un peu digital, etc. Ouais. C'est clairement Total Recall, en fait.
Oui, bien sûr.
Il y a ça dans Total Recall.
Il y a plusieurs Total Recall, d'ailleurs, même le moment où il est à l'aéroport, là. En mode, tu sais, la frontière, il y a le scan et tout, c'est totalement Total Recall. Ils ont changé de figure et tout. Enfin, c'est absolument Total Recall.
Mais ouais, et puis il y a des scènes que je. Certains moments, je me disais, ça a bien vieilli, d'autres, ça a très mal vieilli, tu vois. Ouais. Mais j'ai pas réussi, je me suis dit, tiens, peut-être que je vais l'aimer aujourd'hui. Et j'arrive pas, je suis un peu comme toi, Guillaume, j'arrive pas à aimer ce film, quoi, tu vois.
C'est pas notre délire.
Mais bon.
Sarah.
Toi qui adore ce film.
Non, je vais te poser une question, Sarah. Quelle est la scène qui t'a le plus marqué dans le cinquième élément ?
Alors, contrairement à vous, moi, ce film, dans son entièreté, m'a marqué. Et je trouve qu'il y a tellement de scènes cultes dans ce film, que ça soit l'introduction du personnage de Chris Tucker, justement.
Ouais,
ça, c'est vrai.
Ruby Road, quand il arrive.
Ah, mais il y a plein de bons points dans ce film, attention.
Là, t'as parlé que des points négatifs.
Oui, c'est vrai.
Je suis désolée, hein. Ouais, donc, attention. Mais.
C'est pour contrebalancer avec vous. J'ai l'impression qu'en fait, il y a un clan. Il y a et Aurélien et Sarah contre Guillaume et JB ce soir.
Oui.
Qui le remportera le match, on verra bien.
Ouais, bien sûr.
peut-être qu'il est sous-coûté. Hein, j'ai pas...
sous-coûté, c'est bien ça, sous-coûté. Pour moi, ça s'écrit en un mot. S-O-K-O-U-T-E.
Exactement, pour moi, c'est une chanson.
J'aime bien.
Ouais. Ouais, sous-coûté, c'est une chanson.
Extromaé.
Sous-coûté.
C'est la
sous-coûté,
suite.
Sous-coûté. Oui, donc alors oui,
donc, le... scène, j'adore la scène avec Chris Tucker. J'aime beaucoup aussi la scène, bien sûr, de la diva quand elle chante.
Ça, c'est fou.
Alors,
C'est incroyable cette scène.
C'est justement, c'est la scène où j'étais là, mais non, je peux pas.
Oh non.
Ah, je... ah ouais, moi aussi, j'aime pas cette scène.
Quoi?
J'ai l'anecdote
sur cette scène.
Ouais, moi aussi, j'aime pas. Mais j'ai même la victoire. En fait. J'aime pas du tout.
En j'aime fait... pas. J'aime pas la chanson. Ouais, moi aussi, j'aime pas. J'aime pas le délire.
Mais je... non, mais argumentez votre propos.
Mais je sais pas, je trouve ça ringard. Moi, je suis d'accord avec lui. Mais je sais pas. Et à un moment, il y a des scènes où les gens sont là, 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 là. Je sais pas, je suis là, bon. Je sais pas, ça fonctionne pas. Et puis d'ailleurs, tiens, j'ai un truc à dire sur cette scène. Non, mais j'ai un truc à dire sur cette scène de la diva. C'est qu'il y a les pierres à l'intérieur de la diva. Elle se prend une balle dans le ventre.
Oui.
Mais si elle s'était pas pris une balle dans le ventre, comment il aurait récupéré les pierres?
J'ai même mieux. Comment elle a fait pour les rentrer?
Oui, en plus.
C'est bizarre.
Bah, tu vois, ton film, il est pas si ouf.
J'ai quand même une anecdote sur cette scène. Mm-hmm. Quand j'avais interviewé Eric Serra.
Oh, regardez-le, lui.
Il avait parlé de cette BO et il disait, bah, à l'époque, Besson lui avait demandé de vraiment faire quelque chose qui n'était pas possible de faire avec la voix humaine. Et donc d'arriver à trouver une façon de faire quelque chose qui faisait vraiment extraterrestre. Et donc il s'est pris la tête à enregistrer avec une grande cantatrice pour faire vraiment une... Enfin, je ne sais pas comment on dit, mais... Une tessiture incroyable qui va d'une note très très basse jusqu'à une note très haute. Tu sais, à un moment, ça fait... Et en fait, c'est pas possible à faire avec la voix humaine.
D'accord.
Donc, il a réussi à développer ça avec des machines, etc. Et c'était le but de vraiment ressortir un délire de cantatrice extraterrestre. Qu'est-ce que ça pourrait être?
Ça, j'ai bien.
Intéressant même, comme délire. Je crois même qu'il a utilisé sa propre voix pour faire les voix très graves. Qu'il a mélangé.
Oui, parce qu'il a réussi à faire
c'est
un truc.
C'est une très bonne anecdote, ça, Sarah.
Ouais.
Bravo.
Écoute, c'est mon film préféré, je le répète, mais...
Guillaume, quelle est ta scène préférée? T'as quand même une scène que t'as aimée dans le film. Une scène qui t'a marqué.
J'ai très mal travaillé parce que je l'ai pas revu.
Lui, il est venu, mais en plus, on le voit pas, mais il a une pause et il a affalé sur le fauteuil.
Non, mais attendez.
Et je l'ai pas vu.
Non, je l'ai vu, voilà. Et je sais que, en fait, je sais pas...
Non, mais alors, la question, alors... La première image qui te revient. Bah,
justement, la première image qui me revient, c'est le point culminant de ce film où j'ai vu la scène où elle chantait là, et je me suis dit non, mais je peux pas. C'est vraiment le point où je me suis dit, oh, j'aime pas. Là, c'est le point où j'aime pas.
Non, moi, la scène qui m'a marqué, je dirais que c'est l'introduction du personnage de Bruce Willis dans son petit appart.
Oui.
Et aussi le passage où, quand il ouvre la porte, on voit Kassovitz commencer à faire des pas de danse et tout. En fait, j'aime bien ce passage-là parce que, avec la musique d'Eric Serra, avec beaucoup de percussions derrière, on ressent vraiment le style Besson. Et moi, je trouve que, pour le coup, il y a un vrai style Besson qu'on peut retrouver dans Léon ou dans Nikita. Beaucoup aidé par la musique d'Eric Serra à chaque fois.
Ouais, bien sûr.
Le style Besson. Mais dans ses façons de filmer, dans les angles, accompagné de la musique d'Eric Serra, on le retrouvait. Et tu vois, moi, quand j'avais vu le film à l'époque, tu t'en parlais un peu tout à l'heure, Aurélien, j'étais un peu fier quand même. Parce que je me disais, waouh! Un français avec Bruce Willis, avec Gary Oldman, un gros film de science-fiction avec un gros budget.
Ça se tient en plus.
Ouais, tu sais, t'es un peu fier de dire, ok, c'est un film français, genre, on est trop fier quoi.
Ouais.
Et d'ailleurs, je me suis rappelé ça en voyant le film hier, le perso de Gary Oldman s'appelle Jean-Baptiste.
Ouais. Ah, c'est étonnant. Jean-Baptiste Emmanuel Zorg.
Ouais, c'est bizarre, ouais, Jean-Baptiste Zorg. Très étrange. Aurélien, une scène qui t'a marqué?
Moi, c'est vraiment le début avec Bruce Willis. J'aime bien le délire du taxi, volant. En fait, faut remettre dans le contexte que c'était avant les Star Wars où il y a tous les trucs volants, la ville volante et tout. Il n'y avait pas eu tant que ça des villes bien travaillées avec des voitures volantes et tout. C'était un peu nouveau, tu vois.
Bah, je trouve quand même il a un peu pompé sur même, tu vois, les scènes de voitures volantes.
Et Blade
ensuite,
Runner.
Blade Runner. Mais j'ai trouvé que c'était aussi pas mal pompé sur la scène d'autoroute dans Retour à le Futur 2.
Ouais, c'est vrai. Ouais. Mais après, en vrai, c'est ce que je trouve cool et ce que tu dis, c'est que c'est francophone donc et toutes les refs reviennent sur les références de BD et d'illustrateurs des années 70-80, français et belges, tu vois, qui avaient été pompés justement par Star Wars et tout ça, tu vois. Donc le fait que...
Après, Meubus a fait un procès à Besson pour le film. Jodorowsky aussi, d'ailleurs.
Bah oui, parce qu'en fait, il a repris tous les délires de... C'est le fameux truc de leur film Dune, là, où ils ont fait énormément de choses.
Quelle est ta scène que t'as marquée qu'on a dégressé?
Je disais, Bruce Willis, comme toi, en fait, un peu dans l'immeuble, je trouve que c'est pas une scène précise, mais... Tout ce truc de... Quand il y a des gens qui viennent... Tu sais, ça fait un peu une comédie, mais tu sais, ils viennent tous à son appart qui est minuscule. Ils parlent en même temps avec sa mère. Ils fument des clopes toutes pourries. Et tu vois que sa vie, elle est pourrie.
Ouais, parfois, on sait pas si c'est sérieux ou si c'est comique. Par exemple, quand ils foutent les gars dans le frigo.
Ouais.
Ils rouvrent le frigo, ils sont tous frigorifiés. Mais t'es là, genre, bah, ils sont morts ou ils vont revenir comme... Parce que tu sais, il y a un côté cartoon dans le film où on sait pas s'ils vont revenir vivants, en fait.
Puis il y a un peu une critique de, tu sais, le tout... comment dire, tout progrès, tu vois, ou genre sa douche en même temps. Enfin, tu sais, en fait, il te faut croire que c'est génial son appart. En fait, c'est pourri, c'est une prison. Ouais. Sa douche en même temps, un truc qui prend les fleurs, il n'y a rien qui marche, et puis il y a tout le temps des embrouilles. Ça, j'ai bien aimé ça.
En revoyant le film hier, il y a quand même des petits trucs que j'ai notés, que j'avais complètement oublié. Déjà, il y a Dylan McKay en introduction, Luke Perry de Beverly Hills qui joue au début du film. Donc ça, j'étais assez surpris, j'avais complètement oublié.
L'assistant.
Ouais, c'est ça. Il y a aussi un acteur qui s'appelle Brian James qui joue son ancien caporal ou je sais plus dans le film, qui est un méchant qu'on a souvent vu dans les films des années 80 comme Tango et Cash ou 48 heures, plein de films comme ça. Donc c'était cool. Ouais. C'est le mec justement qui est dans le frigo qui se retrouve frigorifié. Okay. Et le dernier truc, quand même, j'avais jamais pensé à l'époque, mais ce film, c'est la réunification entre Marcellus Wallace et Bruce Willis.
Ouais, elle est ouf.
Ça, c'est marrant de dire ça.
Ouais. D'ailleurs, Marcellus Wallace, après, il y a un truc qui est
qui joue assez mal dans le film, d'ailleurs, je trouve.
T'imagines, dans le scénar, tu mets un truc et tu dis genre, bon, ok, les gars, le grand méchant, ça va être une planète qui parle, une boule noire. Et on sait pas, des fois, il grossit et tout. Ouais. Là, je me suis dit, quand même, là, il a vendu un scénar, c'est un délire, parce que c'est impossible. Enfin, c'est compliqué de rentrer dans ce délire. Tu le revois, tu fais genre... Mec, c'est une planète qui parle, là, c'est ça?
Mais alors, je trouve que c'est vite personnifié après à travers le personnage de Zorg, tu vois.
Ouais,
ce que je veux dire, c'est son assistant, quoi. C'est lui qui parle pour lui. Tu l'entends très peu, en final, la planète.
Oui, c'est vrai.
Il y a un coup de téléphone et puis c'est
d'ailleurs,
tout.
D'ailleurs, pour moi, quand je vois le film, c'est plus Zorg le méchant
oui,
que la planète.
Bien sûr, bien sûr.
Ouais.
Alors, j'aimerais quand même contextualiser l'ensemble, parce que je connais Sarah depuis quelques temps. On s'est rencontrés parce qu'on est tous les deux avec Nike et on réalise des...
Défis sportifs
avec exact. Nike. On a couru un 10K. Là, on prépare un trail ensemble. Donc on s'entraîne ensemble, etc.
Excusez-nous.
Oui, c'est comme ça qu'on parle en sportif.
Excusez-nous,
en
sportif. Okay,
bah. Le sportif, il a quand même mangé qu'une seule banane.
Ouais, c'est vrai.
Elle a fait des pompes.
C'est vrai. Et là, c'est donc la deuxième saison de ces défis avec Nike. Et il y avait un dîner il y a quelques jours. Et on a discuté avec Sarah. Et en gros, on a discuté de tout et de rien. Et à un moment donné, elle m'a dit que Le Cinquième Élément était son film d'enfance. Et là, récemment, je me suis dit, bah tiens, pourquoi pas l'inviter dans le podcast et de parler du cinquième élément, ça peut être cool et tout. Figurez-vous qu'il y a quelques jours, j'en parle parce qu'on est tous transparents dans le podcast.
D'accord ? Ah oui.
Il y a quelques jours, j'ai reçu un message d'une représentante de Luc Besson me disant que Luc Besson voulait participer au podcast de TFTC, en fait. Est-ce que tu voudrais faire le podcast avec Luc Besson ? Il répondra à toutes tes questions, etc. En fait, le premier réflexe d'un type qui adore le cinéma comme moi est de se dire, waouh, Luc Besson, tu vois. C'est le premier réflexe d'un cinéphile. Et après, dans les secondes qui suivent, et d'ailleurs, j'en ai parlé avec vous dans la conve, les gars, on s'est dit non, on peut pas l'inviter, quoi. Après tout ce qu'il y a avec toutes les polémiques qu'il y a autour, on peut pas inviter Luc Besson dans le podcast. Donc
on
a refusé l'invitation.
On avait déjà Sarah, du coup, c'est pour ça.
On avait déjà. Non, mais c'est ça qui est fou. Non, mais c'est ça qui est fou, c'est qu'en fait, on avait prévu, hein, Sarah, on avait prévu de parler du cinquième élément avant qu'on me contacte pour Luc Besson. Ça qui est rigolo, quoi.
Ouais.
Et avec les gars et tout. Et d'ailleurs, on préfère avoir Sarah. On est ravis d'avoir Sarah avec nous.
Oui,
ouais, bien sûr.
Surtout donc, les gars, apparemment, adorent les films de Luc Besson, donc on peut en parler.
Non, mais en fait, en vrai.
Ouais, elle aurait pété la même réplique s'il y avait eu Luc Besson. Je l'aurais fait. Cinquième élément, je m'en bats les couilles. C'est un ringard.
Ouais, t'as pas été comme ça, là.
J'aurais fait non. Alors, je l'ai revu pour le coup et j'ai trouvé ça.
J'ai trouvé sous-côté.
Trouvé sous-côté.
Non, c'est sous-côté. Vraiment sous-côté.
Et donc voilà, donc on a décidé de pas inviter Luc Besson. J'ai poliment refusé auprès de sa représentante. Et ce matin, on s'est entraîné avec Sarah, et j'ai taquiné Sarah. Là, je la vois, elle est comme ça. Non, mais j'ai taquiné Sarah, mais
est-ce
en
que quelqu'un
vrai...
peut me montrer la sortie, s'il vous plaît.
Non, mais en fait, vraie question intéressante. Il y avait une autre personne qui était là à l'entraînement de Nike, et en fait, on s'était dit qu'on avait parlé du cinquième élément, etc. Et en fait, la question, c'était, est-ce qu'on a le droit, aujourd'hui, par exemple, d'aimer, de continuer à aimer le cinquième élément? Je trouve que moi, c'est un débat qui me fascine, par exemple. Je trouve ça hyper intéressant. Pour moi, on a le droit d'aimer encore le cinquième élément. D'ailleurs, aujourd'hui, on en parle, c'est une œuvre unique, etc. Et, tout. Et à cette personne, je lui ai dit, bah, en vrai, est-ce qu'on a le droit d'écouter Michael Jackson encore? Tu vois? Et elle était là, genre, ah, Michael Jackson et tout. Parce que les gens qui
c'est
disent
toujours,
ça,
c'est toujours la,
c'est toujours la référence, ouais, Michael Jackson. Tu vois.
Ça les fait chier de plus écouter Thriller.
Ouais, et en fait, les gens, c'est comme ça, c'est que, en général, les gens qui disent, non, on n'a plus le droit d'écouter les œuvres. Mais quand il y a Billie Jean en soirée, ils ne peuvent pas s'empêcher de fredonner intérieurement Billie Jean, tu vois, forcément et tout. Et moi, je pense qu'on peut encore voir des films comme ça. Tout en rejetant l'artiste aujourd'hui, qu'est-ce que vous en pensez, vous, les gars? J'ai pas posé la question à Sarah, t'as vu?
Exactement,
je t'ai pas posé la question.
Ah. En vrai, si je peux commencer là-dessus, je pense que déjà.
Le débat est intéressant, moi je trouve fascinant ce débat.
Oui. En fait, c'est compliqué parce que ça serait comme dire que tout fait référence aux mauvaises actions d'une personne dans son œuvre. Et en fait, sur un film comme Cinquième élément, je sais pas, il y a des milliers d'acteurs, il y a les mecs qui font la technique, il y a le directeur de la photo, des gens qui ont fait un travail incroyable, qui n'ont rien à voir avec les actions de Luc Besson, et qui ne sont pas dans le propos du film en plus. Enfin, genre, c'est un film de science-fiction, il n'y a pas un moment où il
Par exemple, on ne peut pas reprocher à Jean-Paul Gaultier d'avoir fait le film.
Bah non, enfin, Thierry Arbogast, enfin tous les gens avec qui il travaille, je sais pas si c'est les gars sur ce film, mais il y a des gens qui sont des grands professionnels, et c'est pareil pour Michael Jackson. Ça veut dire que tu considères que Quincy Jones, tu le mets dans tous les problèmes qu'il a eu, alors que, ou toi, tous les gens qui ont joué. Thriller, c'est un album de ouf parce qu'il y a des musiciens de session incroyables que Quincy Jones, il a mis dans les sessions. C'est-à-dire que tu les tues tous, a pu écouter Michael Jackson aussi parce que, genre, le mec, on n'a plus le droit de l'écouter, tu vois.
C'est intéressant ce que tu dis parce que j'ai jamais pensé sous cet angle-là. Que c'est pas simplement l'artiste en fait. Et je pense que pour une œuvre, il y a plein de personnes qui ont bossé autour et que c'est hyper injuste pour eux.
C'est plus dur pour un mec qui crée un bouquin ou une meuf qui écrit un bouquin tout seul et bah.
Oui, mais alors,
problème avec cette personne.
À ce moment-là, ce que tu dis, ça voudrait dire que pour Noir Désir par exemple, pour Bertrand Cantat.
Ouais, je pense que c'est un problème.
On pourrait se dire, bah ouais, mais c'était un groupe en fait.
Bah, mais moi je pense que c'est aussi un souci, tu vois.
Parce que du coup, là, c'est encore plus épineux Bertrand Cantat, parce que bon, maintenant il s'est fait tout est cancel, ça passe même plus à la radio, ça passe nulle part, etc. etc.
Et pour moi, à juste titre.
À juste titre, bien sûr. Ouais. Mais en fait, du coup, comment on évalue le juste titre?
Ça, c'est une bonne question aussi.
Tu vois?
Mais tu vois, alors justement, en fait, il y a eu un petit bruit là.
Ouais, c'est bon, j'ai fait.
Ah, ok, d'accord. non, en fait, il y a. Alors,
c'est le bruit du bad buzz en fait. C'est, Ça vient de se déclencher après ce que j'ai dit. Comment on évalue le juste titre, c'est affaire. Allez, bam, c'est le bad buzz, merci.
Ça, je vais couper. Non, mais. En vrai, en général, on parle souvent de Michael Jackson pour ce genre de débat, mais on parle aussi.
R. Kelly aussi.
Non, moi je trouve qu'on parle aussi souvent, et c'est intéressant, de parler de Louis-Ferdinand Céline, l'écrivain.
Bien sûr.
Parce que, par exemple, on a des types comme Lucchini qui joue encore ses pièces aujourd'hui, etc., et qui lui défend bec et ongle et qui dit. Voilà, les textes sont extraordinaires. Et effectivement, que certains de ses livres sont des chefs-d'œuvre. Je pense au Voyage au bout de la nuit. Et j'ai vu pas mal d'interviews de Louis-Ferdinand Céline. Et il dit un truc que je trouve assez intéressant. André. Il dit, vous voyez, là, vous êtes en train de me filmer avec une caméra. Le type qui a créé cette caméra, il était peut-être genre problématique, il était peut-être raciste, etc. Ouais. Mais là, en tout cas, l'objet, il fonctionne à merveille. Il est magnifique, l'objet, en fait. Il fonctionne et c'est une invention extraordinaire. Et l'objet fonctionne, tu vois. Et il était en mode, le mec qui l'a créé, je m'en branle, tu vois. Et moi, je parle de l'objet. Et ça, en vrai, sous cet angle-là, je trouvais ça intéressant.
Après, je pense ça plus compliqué, Céline, qu'en vrai, parce que lui, dans ses livres... Céline, il y a des trucs dans ses livres.
Non, mais il a écrit un manuel. Hein, il a écrit un manuel comment reconnaître le juif.
Bah ouais, non, c'est
il a fait des trucs très très.
Ton exemple JB était très pertinent où tu t'enfonces encore plus dans une sauce.
Ah non, pas du tout. Non. En vrai, le
politiquement, c'est plus compliqué. Ouais.
Non, en vrai, l'exemple de l'objet, je trouve intéressant.
Il y a beaucoup de.
L'objet, c'est vrai.
En fait, je pense qu'il y a un rapport bizarre avec l'artistique et ça dépend de la fonction que t'as. C'est-à-dire que il y a des artistes à qui tu les as mis en trophée dans ta chambre, en poster, etc. C'est des modèles, tu vois. Ça devient des modèles. Il y a des gens pour qui Michael Jackson, c'était un modèle absolu, tu vois.
Ouais.
Et c'est difficile de changer de modèle, en fait.
Ça, c'est dur.
C'est très dur de dire, bah non, mais en fait, ah bon, tout ce que j'ai. Je suis fan depuis 20 ans et je dois faire, oula, c'est fini, tu vois.
Il y en a
plein. Il y a un truc qui font partie de ton histoire.
Il y a aussi parfois des.
C'est que les œuvres, elles font partie de ton histoire perso après, tu vois.
Parfois,
et en fait, tu vas pas réécrire ton histoire perso. Il y a un truc un peu bizarre comme ça.
Mais tu sais, c'est comme la Joconde, c'est genre le tableau qui est peut-être le plus visité au monde. Mais si demain, par exemple, je sais pas, on apprend que De Vinci était très problématique. Est-ce qu'il y aura encore des files d'attente sur la Joconde?
Regarde, Picasso. Picasso est catastrophique. Picasso est catastrophique.
En fait,
t'as des. Non, mais après, t'as aussi des gros noms qui passent à travers. Hein. Genre Claude François, il est catastrophique.
Bien sûr.
Ouais, ouais.
Personne n'arrête de passer pas encore, du Claude François.
Ouais, non, mais je trouve ça fou que ce gars soit pas genre.
Il est catastrophique. Ouais. Tu regardes. Attendez, mais il a fait des trucs affreux. Et bon, bah c'est Claude François. Du coup, ça fait partie du patrimoine. Du coup, on le passe encore.
Tu vois, regarde Weinstein, catastrophe. Est-ce que vous regardez encore des films produits par Miramax?
Bien sûr.
S'il a produit des milliers de trucs.
Ouais, bien sûr.
Oui, mais regarde,
donc c'est chaud, tu vas pas t'arrêter. T'imagines que...
Je vais pas ne plus regarder Will Hunting parce que Weinstein, tu vois.
Bah ouais. Bah.
Alors ça dépend de l'implication de la personne dans le projet.
Bah, producteur.
Non, mais là, c'est plus l'implication de Ben Affleck et Ben Stiller.
Non, mais par exemple, ça dépend de l'implication du.
Ben Affleck et Matt
Damon. Si le chef opérateur il est catastrophique, ça dérange personne. Tout le monde regarde le film.
Ouais, parce que c'est pas ce que je veux dire. C'est marqué en gros, quoi.
Bon, écoutez, de toute façon, c'est pas vraiment le sujet, mais moi je trouve que c'est un débat fascinant. En vrai, ce débat me fascine, je trouve ça trop intéressant.
C'est quoi de dire sur Twitter ce que vous en pensez?
Bien sûr. Non, mais moi,
on va se faire tuer.
Bah non, pas du tout, moi je vous ai trouvé très mesuré.
C'est le dernier podcast.
En vrai, moi je suis pas.
Non, mais en fait, je vous dis ça parce que ce matin, j'ai pas arrêté de taquiner Sarah en fait.
On l'a pas beaucoup entendu sur le sujet d'ailleurs.
Non, mais c'était une volonté de ma part.
Ah, parce qu'elle est en reconversion professionnelle, elle promet de tirer les cartouches. Voilà. Nous, ça y est, on est trop vieux, on est des vieux schnocks, on a plus rien à foutre. Elle est là, oula, non, je parle pas de ça.
Le gars, il était majeur quand c'est sorti.
Je l'ai taquiné ce matin, je fais attention, hein. Gros bad buzz en vue, attention, ça va être en panique.
Un avis, rien du tout, pas de.
Oula.
Elle a du mal à se lancer.
Non, franchement, je le dirai en off peut-être, mais.
Très bien.
Aurélien, l'actrice principale de ce film est donc Mila Jovovich, ouais, n'est-ce pas?
Oui, tout à fait.
Certains pourraient penser que c'est sa première apparition sur grand écran. Mais elle avait déjà tourné auparavant et dans des bons films, par exemple Chaplin de Richard Attenborough ou encore Dazed and Confused de Richard Linklater. Son parcours est assez particulier puisqu'elle vient du mannequinat et des mannequins qui ont percé au cinéma. Il y en a eu quelques-uns et quelques-unes avec des fortunes diverses.
Tu veux dire, ils n'ont pas tous gagné le même argent, c'est ça que tu veux dire?
Bah, il y en a qui ont percé et d'autres pas trop.
C'est vrai. Pour le coup, j'ai un petit jeu pour vous pour découvrir qui sont ces mannequins.
Allez.
Hommes ou femmes. Je vais vous donner... en gros, trois films pour retrouver qui sont ces personnes. Elles ont joué dedans.
Très bien.
Souvent, le premier film est un peu compliqué. Au bout de trois films, normalement, vous allez trouver, je pense.
Très bien.
Première personne, Dracula de Francis Ford Coppola en 1992.
Ah, Angelina. La meuf de Vincent Cassel. Putain, j'arrive pas.
Monica Bellucci.
Monica Bellucci, là.
Bah, ça va très vite.
Tu me l'as volé.
Et alors ?
Tu me l'as
ça
volé.
Va très vite.
Tu me l'as volé.
En effet,
alors pour
c'est
toi,
vrai.
C'est la meuf de Vincent Cassel, elle a pas de carrière. Quoi.
Ouais, j'avoue. Oh, allez, c'est bien vu ça.
Mais
ça,
non, mais c'était pour que vous retrouviez là. Arrêtez, là. Arrêtez de me créer une fausse sauce.
C'est quand même possible. J'ai plus avec elle depuis des années, quoi.
Arrêtez. En plus.
Oui,
en plus.
Oui, mais j'étais dans l'excitation du jeu. Fallait que vous retrouviez qui c'était.
Oh là 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 là. Incroyable, incroyable.
C'est terrible. Je vais pas te lâcher, oui, Sarah, sur les prochaines minutes du podcast.
Son premier film international, c'était Dracula de Francis Ford Coppola, où elle joue une des trois concubines de Dracula.
Exact.
Et après, on la retrouve notamment en France dans l'appartement où elle rencontre Vincent Cassel, qui sera son compagnon.
Ah bah tiens, vous voyez.
Ah bah merci. Ah, c'est une info tabzienne. C'est une bonne info tabzienne, ça. Mais en sortir ça pendant longtemps, oui, bon.
En gros, Monica, elle a commencé sa carrière en tant que modèle en Italie, notamment pour la marque Dolce Gabbana. Et avant et après, elle a travaillé donc. Qu'elle était polyglotte, elle est partie.
J'ai une bonne question pour vous.
Vas-y, dis-moi.
Parce que très souvent, à l'époque, quand on pensait à la plus belle femme du monde, on pensait à Monica Bellucci.
C'est vrai.
Là, je vais réadapter à notre époque. Premier truc qui vient en tête, Sarah, plus belle femme du monde actuellement. Sarah.
Nathalie Portman.
Nathalie Portman, plus belle femme du monde, Aurélien.
Je sais plus jouer.
Allez, dis un nom, plus belle femme du
Ma
monde.
Ma meuf.
Oh, oh là là, il est bon. Ouais, dis pas ta meuf, toi, parce que c'est.
Hein?
Alors.
Bah, la meuf de Nemo. J'ai pas le droit de dire ma meuf. J'ai pas le droit de dire ma meuf. Qu'est-ce qu'il veut dire? Il me dit, dis pas ta meuf. Bah, ok, bah, la meuf de Nemo. Qu'est-ce que... je suis dans la passe, je vais pas dire à quelqu'un d'autre.
Il est fort.
Bon, allez, on enchaîne. Très bien, on va dire.
Oui, bah, tu m'as coupé, je sais plus. Bref, elle a été modèle pour Dolce Gabbana. Puis, bien sûr, pendant qu'elle a commencé sa carrière. Attends, parce que là, j'ai plus le code. Elle a aussi fait pas mal de campagnes avec Cartier, Dior et toujours Dolce Gabbana, avec qui elle est restée modèle pendant très longtemps. Deuxième.
T'as vu, Sarah, on s'est un peu adapté aussi à ce que tu fais, à savoir.
J'aime bien.
Bah oui, bah tu vois, on s'adapte à l'invité.
C'est beau, ouais. J'apprends des choses. Merci.
Deuxième personnalité qui, dans ses premiers rôles, joue dans L'Ultime Souper en 1995.
L'Ultime Souper. Je sais pas si j'ai vu ce film.
De Stacy Tito.
Non, là, ça va être le petit moment morne du podcast, là, parce que personne ne l'a.
En deuxième, elle a joué dans Petit mensonge entre frères, en 1996.
Toujours pas.
96. Elle a aussi joué dans Feeling Minnesota, en 1996.
Non, non, non.
Bon, bah, elle a joué dans Very Bad Things.
Ah oui, Cameron Diaz.
Voilà, merci. Cameron Diaz, qui est donc né à San Diego, en Californie, et qui, très vite... à l'école, au lycée.
Mais son premier film, c'est The Mask.
Oui, tout à fait, mais oui. Je n'ai pas dit The Mask.
Bien sûr,
premier,
bien sûr,
vois.
Bien sûr.
Elle a été signée et repérée par l'agence Elite. Et elle a commencé en tant que mannequin ses premières années avant d'être repérée justement sur The Mask.
J'ai une anecdote tabzienne.
Jim Carrey.
Mais non.
Oui, bien sûr.
Allez.
Parce que j'ai regardé le documentaire sur Anna Nicole Smith, Netflix,
ouais, ouais, ouais.
Qui est très très bien. Il y a des images d'archives. Et on la voit comme ça, dans sa villa. Et elle est au téléphone avec son agent, puis elle fait « Ouais, j'ai lu le script de ce film-là, The Mask. Combien il propose ? 30 000, c'est pas beaucoup. Vas-y, 50 000 et tout. » Et en fait, elle préfère jouer dans... je crois que c'est « Y a-t-il un flic pour sauver la reine ?» ou un truc comme ça.
Ah ouais. Je me
souviens. Et elle refuse The Mask. Et c'est Cameron Diaz qui prend The Mask juste parce qu'il y avait 20 000 euros de différence ou un truc comme ça. Quoi.
Quelle erreur de carrière.
Incroyable.
Bah ouais.
Troisième personnalité, je sens que je vous endors, ça a l'air d'être...
Non, non, pas du tout, pas du tout.
Premier rôle en 1999, Astérix et Obélix outre César.
Ah bah oui, c'est... j'allais dire la meuf de...
Oh, l'horrible.
Il s'avère que c'est la meuf de Louis Garrel.
C'est vrai.
Et c'est Laetitia Casta.
Ah oui, tout à fait.
En fait, j'ai des moyens mémotechniques pour retrouver. En fait.
Ouais, des moyens mémotechniques vraiment très misogynes.
Voilà, voilà. Hey, toi, tu veux me mettre dans la sauce, toi. Voilà. Tu veux me mettre dans la sauce, toi. Alors que j'ai juste trouvé la bonne réponse.
Oui, oui, oui.
C'est
oui.
Vrai.
En tout cas, elle devient mannequin dès l'âge de 15 ans et rapidement est remarquée par énormément de photographes et de stylistes, notamment Jean-Paul Gaultier. Ça fait un lien avec le film qui nous parle aujourd'hui, qui est le premier à la faire défiler, donc très tôt, dès qu'elle a 16 ans.
Et qui a déjà été mannequin ici?
Moi, eh ben moi.
Ok.
Non, en plus c'est vrai, en plus c'est vrai, en plus.
En plus c'est vrai. Contexte. Allez.
Je vais vous donner une.
Oh, il a dit un moi froid et massif.
Moi, en fait.
Moi.
Bien sûr, c'était moi. En fait,
c'est moi. Il dit.
Il l'a redit.
Attends, mais en plus c'était quoi la maison en plus? Je vais le couper.
Ouais, à mon avis la marque est quand même pas dingue.
Non, c'est une bonne marque en plus.
Ah ouais.
Putain, j'ai un bon.
Dior.
Non, non, c'était pas dur. Attends.
Damar.
Non, non.
Damar.
Attends, c'est quoi? Non, mais c'est une marque avec des vêtements un peu bizarres et tout.
Nike. Ouais, bah, tu
deuxième à toi qui connais.
Ouais.
C'est un mec, le nom d'un mec.
Odigier.
Non, mais je sais pas, j'ai Marité François Gébon en tête, mais c'est pas ça du tout. Je sais pas pourquoi j'ai ça en tête.
Ah, Aimé Léon Doré.
Il y a quoi comme truc français comme ça
ancienne, c'est une ancienne marque.
Non, ça existe encore.
Pierre Cardin.
Non, non. Mais c'est une marque française. Genre un peu niché, tu vois, c'est pas des gros trucs comme Dior, etc. Tu vois, mais putain merde, comment ça s'appelle ça?
Mais attends, c'est récent ça?
Ouais!
Non, ah, je sais ce que tu veux dire.
Non, c'est récent, c'était. Mais je crois que je t'avais déjà raconté cette histoire.
Toi, c'est récent, non?
Attends, je fais un petit point de montage, mais.
C'est pas récent.
Récent, genre combien de temps?
Non, c'était en 2002, 2003.
Ah oui, tu vois, on n'a pas le même genre de sap.
Non, mais tu sais, c'est des saps un peu. Tu sais, farfelus, tu vois, mais genre, pas, c'est pas des iguales, tu vois. Mais. Putain, comment ça s'appelait? Attends, ça me rend ouf. Attends.
Christian Lacroix?
Non, c'est pas Lacroix.
Van Dutch?
Non, c'est français. Et c'est un.
C'est vraiment de la haute couture, quoi. C'est défilé, tout ça, machin, Fashion Week et tout, tu vois.
Ah, Castelbajac.
Non, c'est pas Castelbajac. Ah, ah putain. Attends. Ah non, il n'y a pas la Wi-Fi ici. Bon, je l'ai plus.
Bon, bah écoute, on n'a qu'à dire que c'était. C'était
ok, attends, je reprends. Ok. Donc, moi, comme j'ai dit, un mois. Ouais. Non, en fait, l'histoire se situe en 2002, 2003, un truc comme ça, je dois avoir 19, 20 ans. Et je marche dans la rue avec Midi. Et en fait, il y a une meuf qui arrive et qui me dit, voilà, en fait, on fait du... Pas des castings sauvages, mais des... Comment ça s'appelle?
Si, ouais, tu castings.
Ouais, voilà, comme ça. Et en fait, on... Parce que j'étais hyper grand et hyper maigre, mais vraiment très, très maigre et tout à l'époque. Avec les cheveux longs et tout, enfin, tu sais, vraiment un style particulier. Et elle me dit, bah voilà, on recherche des profils et on recherche un peu des profils comme le tien, donc qu'est-ce que tu voudrais venir? C'était une grande maison parisienne, mais j'ai oublié le nom. J'essaierai de le retrouver dans un autre podcast. Et donc voilà, et en fait j'y vais, et moi j'étais hyper fier forcément. Et donc j'y vais, et il y a un premier casting, et le casting, fallait porter, en fait on était genre 10-15 à être là, dans la maison de couture, et en fait, fallait défiler en torse nu, avec un jean.
Oh, ça régale, tu veux et... nous le faire la vite fait?
Non. Et en fait je l'ai fait, et après fallait faire des photos torse nu avec une veste habillée, et ils m'ont jamais rappelé. Donc j'étais un petit peu casting. Bon, j'étais un petit peu
t'as
mannequin.
Pas été mannequin.
Ils m'ont repéré, qu'est-ce que je te dis?
Ah oui, bon.
Oui, c'est vrai que tu nous as vendu du rêve. On
oui, j'ai vendu du rêve.
Ouais,
mais...
moi et tout.
Vous avez déjà été repéré dans la rue par une grande maison de couture?
Non, mais
allez.
Non, c'est vrai.
C'est non.
C'est vrai.
Ça arrive une fois dans une vie, ça.
Ça arrive une fois dans une vie.
Allez, si je retrouve, je vous dirai la maison de. Mais c'était une grande maison. Je te laisse continuer.
Une autre personnalité qui tourne en 2002 dans The Piano Player de Jean-Pierre Roux.
Bah.
Ensuite, en 2002 aussi, ni pour ni contre, bien au contraire, de Cédric Lapiche. Elle joue la co-girl du directeur.
En quelle année?
C'est une Française?
2002. Ah. Et elle joue aussi en 2002 dans Mon Idole de Guillaume Canet, où elle joue Clara.
Je vais dire une bêtise, mais j'ai envie de dire Cécile de France, mais c'est pas ça.
Non.
Très bien.
C'est une personne qu'on peut retrouver dans Inglourious Basterds et aussi dans 3.
Oh, attends.
Ah, c'est Diane...
Kruger.
Vraiment, il a vraiment aucun respect pour les...
Non, parce qu'en même temps, je suis en train de chercher la maison de couture. Donc...
Ah, il ne veut pas lâcher son histoire.
Enfin, j'ai quand même la bonne réponse, même si je cherche la maison de couture.
C'est tout à fait Diane Kruger, vous avez raison.
Diane Kruger.
Réponse collégiale, qui à 15 ans remporte le concours de beauté Look of the Year Modeling Award en Allemagne.
Le même concours que JB a gagné en 2002.
Je crois que c'est ça.
Eh oui.
Et pour le coup, elle est recrutée par l'agence Elite, encore une fois, pour une carrière de mannequin international. Elle n'a que 16 ans. et elle s'installe à Paris pour se formaliser avec la langue française. Et bien qu'elle soit considérée comme trop petite pour être mannequin, et ben elle débute et fait une carrière très remarquable, notamment devient l'un des top modèles des années 90. Et elle apparaît dans les pubs pour Yves Saint Laurent, Chanel, Ferragamo, Louis Vuitton ou Burberry. Et elle a aussi défilé pour Marc Jacobs, Dolce Gabbana et Sonia Riquel.
Et là, dans toutes les marques, il n'y a eu aucune marque...
Mais non, mais j'arrive pas à la retrouver, ça me rend dingue.
Il a cité toutes les grandes maisons, donc à mon avis,
ça me rend dingue. Non, mais en
mètre carré.
Ça me rend dingue.
C'est un casting petite, pour Intermarché, en fait.
C'était Monoprix, ton truc.
Je vais
retrouver. Pour finir sur Diane Kruger et faire un lien avec notre ami Besson, bah, en fait, c'est lui qui l'a découverte et qui lui a dit « Prends des cours et deviens actrice ».
Ok. Très bonne anecdote. Et si je peux me permettre, vu que tout le monde nous écoute, c'est pas notre ami. Hein,
bien sûr. Non,
attends, il a dit notre ami pour qui?
Notre ami Besson.
Oui, il a dit ça.
C'est pas notre ami. Voilà, c'est pas notre ami.
Bon, une formulation.
Non, je rigole.
Pour formuler mon histoire de maison de.
Oh là là.
Je suis encore dessus. Je suis encore dessus.
Haute couture.
J'ai oublié.
C'est infernal, ce mec.
Tu vois, j'ai même pas remarqué pour son truc de mon ami Besson. Je suis dans mes trucs de maison de couture. Ce que je vais faire, c'est que au montage, je vais retrouver chez moi et je vais prendre mon micro et je vais rajouter une passage juste dire. C'était la maison machin et on reprendra le podcast.
Ah voilà, super.
Bah c'était super.
Attends, il y en a encore d'autres.
Ouais, il y en a encore d'autres. Ouais.
Ouais. Il n'y a rien suivi.
Bon, encore un dernier jeu. Jungle Fever en 1991 de Spike Lee.
Ah,
premier rôle.
Naomi Campbell.
Non.
Non, comment elle s'appelle? J'ai oublié son nom.
Allez, on enchaîne.
Ali Berry. Oh merde, je l'ai dit.
Ouais, ouais, c'est catastrophique. Ouais, c'est le jeu est catastrophique. Il donne les réponses et tout.
Hey, il l'a dit sur le même ton que le jeu.
T'es vraiment en train de lire.
Ali Berry. Oh,
ouais, bon. Ouais, Ali Berry, je ne le savais pas. Je ne sais pas si vous le saviez, mais dans les années 80, elle a remporté plusieurs concours de beauté.
Ouais, c'est pas étonnant. En vrai.
Notamment oui. Miss Teen All-American en 85, puis Miss Ohio USA en 86. Et elle devient première dauphine de Miss USA, puis quatrième dauphine de Miss Monde carrément.
Oh, wow.
Qui a déjà vu Opération Espadon?
Ah ouais, donc vraiment.
Non, mais c'est avec Halle Berry.
C'est vraiment pas ton jeu.
C'est avec Halle Berry. Ouais, c'est avec Halle Berry, Opération Espadon.
Non, mais c'est.
Non, parce qu'il y a une scène avec Halle Berry qui est pas mal.
Ah, le ton que t'as pris pour parler de cette scène.
Oui.
Quoi? Je sais pas ce que ça voulait dire. J'ai hâte de découvrir cette
J'ai pas vu en tout cas.
Ah non, bah.
Non, il y avait pas un truc. T'as dit ah, mais ça avec des cœurs dans
toi.
Les yeux.
Toi, t'es une mentaliste, toi, non?
Exactement.
Oui, elle a lu dans mes pensées. Bon, ceux qui ont vu par sur des espadons, ils savent. Et qui sont nés dans les années 80.
Je suis pas dedans.
Si.
On peut pas faire des chroniques tranquilles.
Allez, 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 allez.
En tout cas, c'est devenu la première afro-américaine à participer au challenge Miss Monde en 86.
Bravo.
Et après, elle est devenue donc mannequin.
Ah, j'ai une bonne info.
Actrice.
J'ai lu un truc sur Twitter. À votre avis, quel pays a le plus de Miss Monde dans l'histoire?
Brésil.
Non.
Colombie.
Non. C'est avec 4 titres. 4 titres de Miss Monde pour ce pays. C'est le record.
Argentine.
Brésil.
C'est non. Non. C'est un pays.
Venezuela.
Non.
C'est immense.
Non, c'est un pays. Alors, je crois que c'est l'Asie, hein, si je dis pas de bêtises.
Panama, non.
Non. Je crois que ça fait partie de l'Asie, oui.
Ok.
Ah, ok.
Je crois, hein. Peut-être que j'ai déjà dit une grosse bêtise, mais je crois que ça fait partie de l'Asie.
Indonésie.
Non, mais c'est l'Inde. Tu étais presque.
Ah, bah voilà. Ah.
C'est l'Inde qui compte 4 Miss Monde.
Ah bon?
Okay.
Bah ouais.
Après, il y a beaucoup de monde là-bas.
C'est l'info que je vous donne. Voilà.
Après, il y a beaucoup de monde là-bas.
Pour... Non, mais...
Vraiment une info qui est tombée comme ça.
En termes de proportion.
Non, mais après, il a pas tort. Ils ont plus de chance, du coup.
Bah, je crois qu'il y a une personne sur 5 qui habite en Inde, donc forcément.
Bien sûr. Bien vu, Nemo.
Globalement.
Alors, c'est fini, du coup, le
Il y en avait d'autres, mais j'ai bien vu que là, on est...
Non, mais c'est pas ça, c'est qu'en plus, c'est un rendez-vous après.
Allez,
non, mais t'inquiète.
Faut qu'on enchaîne. Non, mais allez, ok, un dernier.
Un dernier?
Ouais.
Plus moderne, alors?
Ouais.
2012, Anna Karenine.
Je crois que c'était encore le nom de... non, j'ai pas.
En 2014... La personne joue dans l'affaire Jessica Fuller.
Non, j'ai pas.
Et en 2015, elle joue dans la face cachée de Margot.
Je l'ai pas du tout.
Ah, si je l'ai.
Oh, elle l'a. Oh, elle l'a.
Attends, j'ai oublié son place. Oh, je suis ouf.
Pense au mec. C'est la femme de.
Non, si je me trompe pas, elle est homosexuelle.
Tout
cette
à fait.
Mannequin. C'est Cara Delevingne.
Exactement.
Oh, joli.
Oh,
bravo. C'est toi qui remporte le jeu, parce que si, c'est le qui tout oublie.
Voilà, c'est stylé. Et qui fait donc un lien avec notre ami Luc Besson, vu qu'elle a joué dans
notre ami.
Alors, je précise pour ceux qui nous écoutent,
c'est pas notre ami.
Notre ami.
Je rigole, hein, ça va, mais c'était pour faire un lien avec Valérian, qui est pompé alors, aussi sur...
Oui, exact.
Voilà. Sarah, Valérian. Est-ce que tu peux me lister les 5 éléments, s'il te plaît?
Vraiment, la chronique, mais
t'as rien à foutre. Il enchaîne.
Non, mais c'est comme ça ici, les transitions. Est-ce que tu peux me lister les 5 éléments, s'il te plaît?
L'eau, le feu, la terre, et le vent, et bien sûr, l'être suprême.
Les loups.
L'amour. Parce que, en fait, c'est un peu ça que veut dire le film, c'est l'amour, le cinquième élément.
C'est ce que ça veut dire, mais oui, elle est considérée comme
oui, bien sûr.
L'être suprême. Donc.
C'est de l'amour. Eh bien, écoute, c'est très bien, Sarah, parce que moi, j'ai trouvé pour vous, tel un chercheur d'Harvard, et j'en ai déjà parlé dans le passé, mais là, on n'a jamais parlé dans le podcast, les 8 éléments qui procurent le plus grand plaisir à l'être humain. Voici les conclusions de mon étude. Il y a. C'est bien quoi ce.
Je comprends rien ce podcast, les gars. Qu'est-ce qui se passe?
Non, mais attendez. J'ai donc trouvé 8 éléments.
Wow.
Il y a grand 8 plaisirs.
Mais non.
Chez l'être humain, je parle là des plaisirs liés au corps et uniquement au corps. C'est les résultats de mon étude.
Très bien.
Ce que je vais faire, c'est que je vais vous lister les plus grands plaisirs liés à l'être humain que j'ai trouvé et on va essayer de savoir quel est le plus grand plaisir, l'élément numéro 1. Vous avez compris? Vous
ouais.
allez vite comprendre. Vous allez
vite comprendre.
Okay.
Voici pour moi les plus grands plaisirs liés au corps humain.
Les coquillettes.
Tu vois. Manger un truc qu'on adore quand on a très très faim. C'est pas trop bien ça?
Si.
T'as méga faim et là t'as préféré que tu le manges.
Et là tu manges une banane quoi.
Non mais, non mais quel plaisir de manger un truc quand t'as méga faim, une bonne part de pizza et tout.
C'est vrai.
Vous voyez ce plaisir un peu?
Ouais.
C'est le premier plaisir que j'ai listé selon mon étude.
Super plaisir, bravo.
Okay.
Oui, super plaisir. Deuxième plaisir, boire quand t'as méga soif.
Ça c'est un délire.
Ah, t'as une soif de dingue et là il y a une eau bien fraîche ou ta meilleure boisson puis là ça coule dans la gorge comme ça. Oh là là, quel plaisir. On est d'accord ou pas?
Ah oui.
Troisième plaisir, aller aux toilettes quand t'as très très envie.
Okay.
Tu peux plus te retenir et tu vas aux toilettes.
Numéro 1 ou numéro 2?
Les deux, ceux que tu veux en fait.
Ah oui.
Et tu peux plus te retenir et là tu vas aux toilettes et c'est la libération. Autre plaisir, s'endormir quand on résiste. On sait qu'on n'a pas le droit de dormir. Et là, on se rendort. Quand le réveil sonne le matin, ou quand on regarde un film au cinéma, ou ce genre de truc. Et là, on se laisse aller au plaisir de s'endormir.
En parlant de ça.
Oui.
En parlant de dormir au cinéma.
Non, on en parlera dans un autre podcast. Ça.
Très bien. Avec plaisir.
Bon.
Je crois que je suis au courant.
Plaisir classique. À savoir faire l'amour, bien évidemment, l'orgasme, etc. Avoir un fou rire. Plaisir lié au corps. Avoir un fou rire. C'est un vrai plaisir lié au corps.
Ça arrive de moins en moins.
Vous êtes épaté par mon étude, hein, d'Harvard.
Ouais, j'aimerais bien avoir la source.
Non, mais attends, autre plaisir que j'ai listé, se gratter quand on a très envie de se gratter.
T'as moi, tout, toi.
on a pas le droit de se. Ou alors sous un plâtre, on n'a pas le droit de se gratter. Et là, oh là là, quel plaisir. Et enfin, le dernier plaisir que j'ai listé, et j'ai fait vraiment un audit, hein, j'ai tout trouvé. Mais celui-là, il prête à polémique, attention. C'est quand on a l'oreille qui nous gratte et on prend un coton-tige là, et on se gratte l'oreille avec le coton-tige. Là.
Ah oui, oui.
Vous voyez ce plaisir? Bon, si, c'est un plaisir quand même.
Un coton-tige, il ne faut plus, normalement.
Oui, est-ce qu'il oui, c'est moi qui t'ai envoyé.
Ça enfonce les trucs.
Oui, bah, c'est ce que je t'ai envoyé quoi, sur Insta.
Je suis très coton-tige, mais.
Bon, voilà. Donc, en gros.
Les gens, il veut pas que je parle.
Les gens, ils se disent, ah, ils doivent s'envoyer des trucs de cinéphile et tout.
Mais non, c'est les
lui, il fait, faut pas se nettoyer avec le coton-tige parce que ça enfonce le cérumen. On s'envoie des vrais trucs.
Non, mais là, vous pensez qu'on parle plus du cinquième élément? On parle des 8 éléments que j'ai trouvés. Voilà. Donc, je vous le rappelle. Manger, boire, toilette, s'endormir, faire l'amour, fourrir, se gratter. Utiliser un coton-tige. Pour vous, quel est le plus grand plaisir du corps humain?
Boire.
Moi, je suis d'accord avec Sarah, le plus grand plaisir du corps humain, c'est boire.
Je crois que c'est boire, ouais.
Pour l'instant, on est sur boire. Hein. Vous vous rendez compte? Mieux que faire l'amour. Vous vous rendez compte?
Mais c'est un besoin vital quand tu...
Après... Ouais, pardon.
Non, mais j'ai rien de plus à dire.
Ah oui.
Un besoin vital. Non, mais je sais pas. Quand tu... Par exemple, quand je fais le ramadan, la chose à laquelle je pense plus que tout... C'est de boire à la
plus
fin de la
manger.
Journée, bien sûr.
Okay.
Plus que toute autre chose, c'est que tu dois boire.
Ouais. Et donc le coton-tige, tu le prends pas alors?
Non.
Ok, Aurélien.
Ouais.
Ah non, toi t'es pas sur boire, toi.
Si, bah, si c'est, boire, vital, bien sûr. C'est vital. Mais
non, après, mais il y a un truc que tu peux préférer.
Le plaisir, je pense que je préfère un fou rire. Hein.
Ah oui.
Donc pour lui, ce serait le plus grand plaisir du corps humain, Nemo.
Bah, c'est
le fou rire. C'est vrai que le fou rire, c'est bien.
Oui, c'est
avec Guy, on a déjà eu plein et c'est vrai que c'est toujours un régal.
En vrai, c'est un truc qu'on a, tu vois, que les animaux, ils ont pas. Bon.
Ah, c'est pas vrai ça.
Non, les animaux, ils rigolent.
Non, mais les singes, ils rigolent et tout.
Ah ouais?
Est-ce qu'ils rigolent vraiment?
Ah, je suis pas sûr de mon
étude. Ah ouais, oh, il est pas sûr. Parce que moi, de toute façon, tu parlais à un chercheur là.
Oui, bien sûr, un chercheur de Harvard.
Je crois l'humour et les fou rires, il y a que nous.
Ouais, c'est peut-être ça. L'humour, peut-être, je sais pas. Peut-être.
Non? Ah. Les blagues,
attends, mais on est allé très vite dans la conclusion, donc ce serait donc boire l'élément numéro 1 du corps humain.
Attends, parce qu'il y a un élément Ah. Et tous les buveurs de bière qui nous écoutent le savent.
Ah.
Quand on boit beaucoup de bière, il y a toujours un moment où il faut faire le premier pipi.
Ouais.
Et le premier pipi, quand on a méga envie, il met des frissons et tout.
Ah bon? Ah, je sais pas ça. Je bois pas d'alcool, je bois pas de bière, donc je peux pas savoir.
Mais non, mais moi non plus. Ouais. Ok, ma mère écoute.
Ah bah si, toi, t'en bois.
Non, c'est pour me raconter.
Moi, j'ai arrêté la bière. J'avais pas commencé.
Tu bois de la bière, Sarah, ou pas?
Je bois pas d'alcool.
Oh, bravo.
Bravo quoi?
Ah bah parce que moi aussi.
Et bravo, alors quoi?
Et bah alors, je suis. Bah, donne-moi une médaille. Donne-moi tout simplement une médaille. Ah, t'as une réaction de gros polchetron ou quoi?
Qu'est-ce que je voulais dire? Non mais si on doit en lister un autre, puisque c'est évidemment boire de toute façon. Boire, oui.
Non mais est-ce que j'aurais loupé un plaisir? Je pense pas, j'ai fait une grosse recherche sur la question.
Moi je pense que tes plaisirs en fait ils sont mélangés. Je pense qu'il peut y avoir des sous-catégories dans tes plaisirs.
Non mais par exemple il n'y a pas de plaisir genre aller faire, je sais pas, acheter des vinyles ou aller faire du shopping, etc. C'est un vrai plaisir. Mais c'est pas un plaisir lié au corps humain.
Bah alors, oui, mais... moi j'en ai un peut-être.
Ah, vas-y. Il en a un.
Sentir le soleil sur sa peau là, tu sais.
le poète.
Non, mais c'est vrai.
Ouais,
mais oui, parce que tu fais le plein de mélatonine.
Bah ouais, après, exact. Attention, c'est pas le poète, bronzé, mais c'est le poète maudit lui. Hein.
Ouais, c'est vrai. Mais il y a un truc que t'as pas dit, parce que bon, j'imagine que c'est pas trop ton truc, mais prendre une bonne douche.
Non, mais c'est...
Quoi, ça fait pas plaisir une bonne douche?
Si, ça fait plaisir.
Là, regarde, je te donne un contexte. Je te donne un contexte.
Ouais.
Tu viens de partir.
Essaye de me convaincre.
T'as pris l'avion, etc. Ouais. T'as 16 heures d'avion.
Ah, il est en train de me convaincre.
Tu prends le taxi.
Il est en train de me convaincre.
Tu prends le taxi. T'arrives à l'hôtel. Ouais. T'as tes mêmes fringues depuis 24
heures.
Ouais,
mais t'as un peu la flemme d'aller te laver.
Ah non,
y a que toi, JB.
Mais non, oui, mais le trajet de ton lit où t'es claqué jusqu'à la douche et tout.
Non, moi j'y vais direct. Je suis trop.
Non, mais bien sûr, arrêtez. De toute façon, c'est quoi cette jambe comme quoi je me lave pas?
Non, mais je rigole. Tu t'es douché après le sport ce matin?
Bon, écoute, j'ajoute.
C'est une question que je te pose.
Bien sûr. Je me suis lavé deux fois aujourd'hui. Tiens, tu t'es lavé combien de fois, toi, Sarah, aujourd'hui? Parce qu'on a fait une séance de sport.
Bah oui, bah après le sport.
Et avant le sport?
Bah non.
Et allez, moi je me suis lavé avant le sport. Ça fait que je me suis lavé deux fois aujourd'hui. Enfin, je suis en train de réaliser que c'est pas cool pour la planète.
Bah, c'est
quoi? J'étais content.
Mais depuis tout à l'heure, l'ardoise elle se charge.
Ça dépend si t'as pissé sous ta douche ou pas. Si t'as pissé sous ta douche.
Mais non, mais je peux pas. En fait, je pouvais pas aller au sport en étant pas lavé parce que. Quand tu vas au sport, bon, tu transpires, etc. Mmh. Tu vois. Donc, mais après, c'est pas pareil. J'ai l'impression que les mecs puent plus que les meufs. Quoi.
Donc, attendez, on.
Ouais. C'est de plus en plus catastrophe.
J'allais enchaîner avec un truc.
C'est quoi ce podcast là?
Les mecs puent plus que les meufs et personne ici n'a dit que l'amour était le plaisir numéro un.
Mais non, c'est pas un amour lié.
Le sexe, quoi, je veux dire.
Oui, bah voilà. Oui, personne n'a parlé de faire l'amour, oui, c'est vrai. Personne ne dit faire l'amour, alors que c'est censé être le truc numéro un, normalement. Bon, c'est le cinquième élément du cinquième élément.
T'as dit quoi, pardon, t'as dit quoi?
On a plus 20 ans.
Ça en dit long. Ouais. Je vois ce que tu dis.
Non, l'amour, ouais, oui, d'accord.
Non mais d'ailleurs.
Sentir. Non mais d'ailleurs, tu vois, ça, l'amour
ça,
en soi.
Non mais d'ailleurs, tu dis on a plus 20 ans. Ça ouvre une nouvelle question. Parfois je me dis, eh ben un jour je serai plus l'amour. Et pour moi c'est très tôt. C'est genre 52 ans, 53 ans. Pour moi c'est rideau, ça y est, c'est terminé.
Attends, est-ce que je peux parler en tant que poète maudit? sentir l'amour.
Non mais 52 ans je serai plus l'amour.
Sentir l'amour, ok. Faire l'amour, je veux dire, c'est. Ah,
sexe, quoi.
Faire l'amour, c'est un autre délire.
La bouillave, vois. Quoi.
Ouais, y a pas que
moi, je suis venu pour parler du cinquième élément. Oui. Ça finit en podcast très bizarre.
Oui,
non, mais c'est toujours comme ça ici.
C'est quoi avec toi? Donc, à 52 ans.
Milieu, pardon, comment
pas, 52
ah, moi,
ans,
52 ans, c'est rideau.
Un rideau?
Ouais, les 55 max. Mais après,
salut l'artiste.
Mais pour toi, JB, c'est dans 5 ans, quoi.
Aïe, aïe, aïe.
En plus, il peut même pas dire non. Il dit juste aïe. En plus, c'est juste ça.
Et là, genre.
Ah là là.
La pire est partie.
Ça, il va couper là.
Ah oui, ça va couper ça.
On n'édite pas le podcast, seulement les trucs qui sont pas cool pour JV.
Oui, je suis le roi du montage.
Et ben, je remarque qu'on a bien fait de pas inviter Luc Besson parce que ça aurait été probablement pas le même podcast.
Ça aurait été moins drôle.
Ah oui.
Ouais. Parce qu'en plus, ce qu'il m'a envoyé dans le message, c'était je vous propose un interview de Luc Besson sans filtre.
Oh, ça,
on sait
relou,
ce que ça veut dire.
Ça, dire ça.
Ça veut dire. Non, si, ça veut dire pose toutes les questions que tu veux, là, tu vois.
Ouais.
Et franchement, eh ben, moi, je passe un meilleur moment à vous dire que j'arrêterai de faire l'amour à 52 ans ici avec vous. Voilà, c'est ce que je vous dis.
Ouais.
Bon, très bien, on peut enchaîner parce que.
Bah oui, on peut enchaîner.
C'était mon étude. Vous avez aimé mon étude? Elle était bien?
Elle était bien.
Grave chouette.
Bah, dites-nous sur Twitter. Vous arrêtez de faire l'amour à 52 ans.
Si oui, vous voulez, il me reste quelques mannequins, mais bon, non.
Non, mais.
Il a dit non. Non, non.
Ok.
Bon, très bien.
Non, c'est très bien.
Alors, Guillaume.
Ah, bon, alors.
Lundi dernier, j'ai déjeuné chez toi. Il y avait entre autres de superbes arancini au menu, et après manger, on s'est posé sur la terrasse, à l'intérieur de ta petite pergola. Et confortablement installé bon. Dans ton canapé,
oui.
Tu m'as dit. J'ai préparé un bon petit quiz pour le prochain podcast.
Oui, bah c'est que des quiz aujourd'hui, mais bon, c'est que des quiz. Alors, vous le savez, parce que bon, le cinquième élément, bon, bah, Voilà, je l'ai dit au début. c'est pas mon délire. Mais je vous ai préparé un quiz très simple. Regardez ce qui va se passer. Alors, on compte les points par contre. D'accord. T'aimes bien les jeux, Sarah?
J'adore ça.
T'adores.
T'es une gagnante ou pas?
Je suis une mauvaise perdante.
Ah, t'es mauvaise perdante, toi?
Ouais.
Ah là là. Est-ce que tu peux me dire ton plus grand défaut?
Rancunière.
Ah, oh. Qui est rancunier ici? Moi, je suis un peu rancunier. Non, ça va. Je l'étais avant et maintenant, je le suis moins maintenant.
Bah, c'est la les 52 sagesse. Ans qui s'approchent.
Oui, voilà, c'est ça. Ouais.
Alors, voilà le quiz. Évidemment, le titre, c'est le cinquième élément. Donc, tous les titres de films que je vais vous donner, c'est IEM quelque chose. C'est-à-dire que c'est un chiffre avec IEM derrière.
Vous avez compris?
C'est pas, okay. C'est pas les 7 salopards. C'est par exemple le 7ème quelque
avec
chose.
Okay.
Ok, vous êtes prêts? Je vous lis les résumés. Vous avez juste le premier qui trouve. Il déclenche. C'est parti. Premier film. Harry est un homme seul qui se voue 7 jours sur 7 à son travail. Tout va basculer quand il rencontre George.
Ah, George.
Qui vit dans l'instant. Ces deux êtres que tout oppose vont devenir inséparables.
C'est tout ?
Un indice pour vous qui va aller très vite. George est handicapé mental.
Ah, le 8ème jour.
Oui !
Ah, bien joué.
Bien joué, le 8ème jour. Un point pour Nemo, 8ème jour.
Rappelez plus les prénoms.
Avec Daniel Auteuil et Pascal Duquesne.
Que un des film. Films en IEM.
Oui, voilà, exactement. Je sais pas comment expliquer sans donner des idées, tu vois.
Bah, que des films en IEM.
Que des films en IEM. Alors, bougez pas, bougez. Ah, deux secondes. Merci. Voilà, facialement. Comment ça se passe? Merci. Daniel Auteuil, Pascal Duquesne, film de 1996 réalisé par Jaco van der Mal. Bien joué, 8ème jour. Un point pour Nemo. Le prochain est facile. Ça va aller très vite. Bon. Un garçonnet de 8 ans est entré par un terrible secret. Son imaginaire est visité par des esprits menaçants.
Le sixième sens.
Oh.
Ouh. Non, c'est moi, c'est moi, c'est moi, c'est moi.
C'est là, non?
Non,
bah,
c'est JB, c'est JB.
Oh, c'est moi, oui.
Ah, c'est JB.
Ah, merci, ça va, sympa.
Ça. Oh, ça part. 1-1. Bravo.
Je me fais venir depuis le début sur ça.
Sixième sens, film de 1996, réalisé par Night Shyamalan, évidemment. Voilà, grand film. Ok, c'est parti pour la suite. Écoutez celui-ci. Oh. Ah, oui, je vais faire ça.
En fait, c'est roulant parce qu'on a des films qu'on attend.
Ah,
on aime. On attend de les sortir.
Le scénario du prochain film est celui-ci, 1-1-0 pour l'instant. Pendant la débâcle française de 1940, des hommes se réfugient
dans la 7ème compagnie.
Oh, oh mais où est passée la 7ème compagnie?
Ah, bah,
il est chaud. 2-1-0. Film de 1973 réalisé par Robert Lamoureux. Bravo.
Pour la Seconde Guerre mondiale, en fait.
Je prendrais toujours plaisir à revoir ces films. L'été, avant l'été, tu sais. Ouais. Ça me rappelle mes grands-parents. J'aime bien.
Alors, écoutez bien celui-ci. Doris Walker, employée de la chaîne de magasins Macy, cherche désespérément quelqu'un pour jouer le rôle du Père Noël afin d'animer sa boutique pendant les fêtes. Il embauche finalement Kris Kringle.
Miracle sur la 34e rue.
Oh là 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 là,
là il est bon, 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 il est bon. Je suis nul en IEM.
T'as combien là? 4 points.
Non, 3.
3 points.
3-1,
je crois. Non, 3-1-0. Eh, en buvant, 3-1, je crois.
De toute façon, ça va finir avec tout doux.
Oui, bien sûr que ça va finir.
Ok. En 1959, vendredi soir, c'est l'heure d'embarquer pour un voyage spatio-temporel. Destination, les méandres du destin.
La 4ème dimension.
Oh là 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 là, la 4ème dimension. Mais t'arrêtes pas.
Il s'arrête jamais.
Et s'il perd à la fin, c'est horrible.
Ouais, mais c'est ça qui est bien.
Film de 1983, réalisé par John Landis, George Miller, Joe Dante et Steven Spielberg. Vous connaissez l'anecdote de ce film?
Bien sûr, l'hélicoptère.
L'hélicoptère, allez, ça marche.
Attends, mais tu l'as dit d'une façon très comique.
Ouais, alors c'est méga dur.
C'est horrible.
L'hélicoptère.
Ça a tué deux enfants qui ne devaient pas être sur le tournage.
Non, c'est horrible.
C'est cata. Moi, je me dissocie de ce que tu viens de faire.
Ouais, pareil.
Oui, bah, moi, je me dissocie de ce podcast.
Ouais.
Entier, finalement.
L'hélicoptère.
Non, mais il y a que moi.
C'est culte, ça.
Si tu peux faire un montage là.
Non, je le ferai.
Tu peux dire, mon ami, j'adore les nazis.
Non, ouais, c'est catastrophique.
Sale podcast pour toi, Aurélien. Ouais, aujourd'hui.
J'arrête ma carrière.
Sale podcast, Aurélien. Nous, on sortira très bien tous les trois, mais toi, c'est terminé.
J'ai 52 ans, j'arrête.
Je vais te remplacer dès le prochain.
4-1-0 pour Nemo, bravo.
Ce serait génial qu'il y ait une autre personne sans rien dire au prochain podcast.
C'est très bizarre. Ok, banni de son pays, un poète arabe se joint à une horde de vikings qui combattent des créatures sanguinaires.
Ah, le 13ème guerrier.
Oh là là,
il
là
est bon là.
Là, 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 là.
En dessous de Banderas.
John McTiernan, 1999. Bien joué.
Ouais, et d'ailleurs, dans ce film, il utilise, je crois, une technique qui était aussi dans Octobre Rouge. À savoir de faire un focus zoom sur le personnage qui parle dans un dialecte particulier.
Et après
quand ça dézoome, eh ben, ça parle notre langue.
Ça, j'ai trouvé ça exceptionnel.
Extraordinaire. Ça.
Ouais. Bravo.
Parce que tu oublies à un moment qu'il parlait russe.
Ouais, c'est trop bien.
Rouge, et après, pouf, ça part en anglais. Au moins, il t'explique le truc.
Exactement.
C'est mieux que des Russes qui parlent en anglais du début à la fin du film.
C'est vrai.
Nemo, il est trop fort.
Grave.
C'est vrai qu'il est fort.
Merci.
Au XIVe siècle, la grande peste ravage la Suède. De retour des croisades, le chevalier Antonius Block rencontre la mort sur son chemin.
Ah si.
Il lui propose une partie d'échecs.
Ah, le Seven Seal.
Oui.
Septième saut.
Putain,
le septième saut.
C'était pour toi celui-là. Mais oui,
c'était pour moi,
il m'a devancé.
1957, Ingmar Bergman, bravo. Bon, Sarah, pour l'instant, t'as zéro point.
Ouais, non, je suis fascinée par tant de talent et de culture.
Voilà, attention.
C'est de l'arnaque. Hein.
Allez.
C'est des petits tiroirs et puis, septième saut.
Bon, pour l'instant, c'est toujours Nemo qui gagne.
Ouais, mais c'est quand qui te double.
Bah, attends. Alors, le portrait de cette famille s'esquisse sur une douzaine d'années, à travers cinq journées particulières. Dans la famille Duval, il y a Robert, le père, chauffeur de taxi. Marie-Jeanne, la mère un peu perchée. Et les enfants, Albert, brillant mais colérique, Raphaël, un jeune homme doux et rêveur, et Fleur, l'ado rebelle.
On l'a déjà vu ce film ?
Vous l'avez pas ça ?
Non.
Il y a Pio Marmaille dedans.
Ah ! Non.
Et Jacques Gamblin.
Ah, si. Je vois c'est quoi le film ? Bah alors, comment il s'appelle ce truc ?
Ouais, vous l'aurez pas.
Non.
Il filme des clubs Gamblin tout le temps là. Ils vont en boîte à un moment.
Ah ouais, bien joué.
Exactement. Problème, c'est ça ?
C'est un film de 2008 de Rémy Besançon qui s'appelle Le premier jour du reste de ta vie.
Ah voilà, le premier jour.
Ouais, mais c'est pas un YEM.
C'est le premier. C'est vrai, ça.
Non, mais
c'est
le premier, le deuxième, le troisième, le premier.
Ouais,
c'est pas en yème.
Ah, on dit quoi, le un yème ?
Bah non, justement,
ça
c'est
va,
pas un yème.
Ça va.
Fallait pas le prendre, c'est pas un yème.
Bon, allez.
Ça, on l'avait pas, personne.
Il en reste pas beaucoup, attention. Attention. La victoire est proche. Nemo. Attends, qu'est-ce qu'il nous reste ? Oh, il en reste deux. Ok.
Oh.
Aux États-Unis, au 22e siècle, Adam Gibson est à la tête d'une prospère entreprise de voyage en hélicoptère. Il mène une vie rangée entre son épouse, leur adorable fille et leur vieux chien Ronchon.
Ah, je l'ai.
De retour chez lui.
Je l'ai. C'est... Arrêtez de m'embêter, là. Parce que c'est le film avec Schwarzenegger. Et c'est le sixième jour.
À l'aube du sixième jour.
Oui, à l'aube du sixième jour. Bien joué, Nemo, bien joué.
Non, arrête.
Le titre parfait, c'est à l'aube du sixième jour. Bien joué, Nemo. Un film de Roger Spottiswoode en 2000. Ok, c'est le dernier film.
Spottiswoode.
C'est le dernier film. C'est qui tout double. Celui qui trouve, il gagne. Allez, hop. Alors que Nemo, il a cartonné de fou. C'est pas grave.
C'est vrai que c'est Sarah qui l'est après avoir eu zéro.
Okay.
Oh, ça va. Hein.
C'est vrai qu'elle a eu zéro. Film avec Gad Elmaleh où il joue. Non, pas du tout. J'ai essayé de te le faire pour toi. Mais...
Le deuxième chouchou.
Alors, dernière soirée de fête en toute liberté pour Monty, qui fut autrefois le roi de Manhattan.
25e heure.
Oui, la 25e heure.
Ah, c'est pas le grand champion. Ah, ouais, il est dégoûté là-bas.
Ah, c'est bien. Film de Spike Lee de 2003.
C'est moi le grand champion.
Bravo. Alors, si je peux expliquer les coulisses de ce jeu, figurez-vous que. Et on était sur la terrasse justement hier. Et je lui dis, ah, mais je vais faire un jeu où c'est tous les yems, tu vois. Et là, il me dit, putain, mais attends, là, j'y pense, j'en ai aucun. Je dis, bah non, mais par exemple, la 25e heure. Il me dit, oh, je le dirai demain, ça.
Ah, non, mais attends, je me suis rappelé de l'histoire, là, c'est moi qui ai gagné.
Mais ben, bravo. Bien joué, bravo.
Eh ben merci, non, mais bravo Aurélien. Incroyable. En vrai, c'est le vrai gagnant de ce jeu, Aurélien.
Je voulais absolument placer la 9e porte, mais tu l'avais pas mis.
Et non.
Mais non, mais il a préféré mettre le premier alors que c'est pas un yem.
Bah, le premier jour du reste de ta vie. En plus, c'est un bon film.
Rencontre du troisième type, ça aurait été pas mal.
Bon, d'accord. Bah,
ouais, bah. Oui, c'est vrai, il a raison.
Non, mais ouais, bah, jouez chez vous, sinon.
Non, mais en plus, c'est pas évident comment t'as fait pour trouver tous ces trucs en yem. T'as tapé yem,
non,
film en yem.
Je suis brillant.
Oui, c'est vrai aussi.
Ah ouais.
J'avais pas entendu cette possibilité.
Il n'y a pas qu'un seul chercheur d'Harvard de toute cette
Oui, je comprends.
Je suis un peu sous-coûté, mais bon. Je suis très intelligent.
Alors, Sarah, t'as mangé quoi
Cette transition.
Alors, Sarah, t'as mangé quoi ce midi
On sent qu'il a mangé qu'une banane, le gars.
Non, mais vraiment, là, il est en malaise.
Non, mais je te pose la question, t'as mangé quoi ce midi
J'ai mangé des pâtes aux champignons à la sauce tomate avec du parmesan. Ah, il m'en restait très.
Attends, mais les pâtes, avant qu'elles soient cuites, si tu les manges comme ça, sans les mettre dans l'eau, elles sont un peu croustillantes.
Qu'est-ce qu'il m'a raconté, lui Ouais. Mais moi, je les mange pas crues, les pâtes.
Non, mais bien sûr. Mais si tu manges des coquillettes. Bon, tu m'as dit qu'on a trop.
Vas-y, alors oui.
Non, mais oui, voilà.
Effectivement, oui.
Parce que, oui.
Tout à fait, j'y vais.
Parce que si tu. Eh bien, ça croustille les pâtes quand tu les mets pas dans l'eau. En fait,
bah,
j'aurais espéré que tu manges un truc plus croustillant que ça. Mais les coquillettes, quand tu les mets pas dans l'eau, ça croustille. Eh bien, ça croustille comme les anecdotes que je vais vous balancer sur le cinquième élément. Voilà,
incroyable.
C'était ma transition.
Tu
veux pas manger des chips comme tout le monde ce midi J'aurais dit, ça croustille les chips.
Toi, t'as mangé une banane.
Ouais, ça croustille pas du tout.
Mais déjeuner quand j'avais 12 ans, ça a des chips.
Très bien. T'as envie que je te régale d'infos sur le cinquième élément?
Tout à fait. D'accord. D'infos que je ne connais pas déjà.
Bien sûr.
Ah, déjà, on peut faire un test.
Oui. Mmh. Alors déjà, pour commencer, le véritable nom de Lelo dans le film, dans le script, hein, c'est Lelo Minai, Lekatariba, Laminachai, Egbat, Desebat.
Lilou, tu veux dire?
Ouais, Lilou, c'est ça son nom. Ah. C'est que quand tu vas sur la fiche IMDb, etc., son nom de, dans le
et
film,
elle
c'est
le dit,
ça.
Elle le dit, en plus.
Elle le
et
dit.
Après, il lui dit t'as pas plus court. Et c'est là où elle dit Lilou.
Ah, c'est tout sur le cinquième élément. Hein.
Tu l'as pas vu?
c'est tout. J'ajoute que 8000 actrices ont passé l'audition, parmi lesquelles Mila Jojovic. Donc, 8000 actrices. Besson, on a vu 200-300. Et il y en a 8000 à la base.
8000?
8000! C'est énorme.
T'étais pas dans le casting sauvage là aussi pour le.
Tiens, comment ça s'appelle? Ça me rend dingue. Je rajouterai de toute façon.
Oui, bien sûr.
pour le rôle de Bruce Willis, deux acteurs étaient considérés avant lui, un Américain et un Français. Enfin, Américain, Américain-Australien. Tiens, Américain-Australien, vous pensez à qui?
Russell Crowe.
Mel Gibson, bravo, ah elle est là.
Ah ouais.
Ah bah, c'était Mel Gibson le premier choix.
Ah ouais.
Et à peu près à égalité, c'était Jean Reno.
Ah oui, Jean Reno.
Son pote, quoi.
Ah, ça aurait pu fonctionner aussi. Hein.
Ouais, tu crois que ça aurait fonctionné? Jean Reno dans le cinquième élément? Pourquoi pas?
C'est en fait parce que le mec, il savait pas s'il préférait Die Hard ou L'Arme Fatale. Donc il s'est dit, tiens, je vais prendre Mel Gibson ou Bruce Willis, je ne sais pas.
Figurez-vous que la première ébauche de scénario a été écrite lorsque Luc Besson était au lycée. C'est-à-dire que pendant que vous faisiez des devoirs de maths ou quoi, bah lui, il écrivait le cinquième élément. C'est l'info que je vous donne.
Tu faisais des devoirs de maths, toi?
Moi, je faisais des devoirs de maths.
Ouais. Moi aussi.
Sarah, ta meilleure matière et ta pire matière?
Peu importe.
Celle où t'étais
classe.
La plus nulle et celle où t'étais la meilleure.
Je pense philosophie, j'étais la plus forte.
Excuse-moi,
j'ai eu 17 au bac de
Sarah,
philosophie,
la philosophe.
T'as eu 17 au bac de philo?
Au bac L en plus.
C'était quoi le sujet?
C'était un commentaire de texte. Ça compte pas, tu vois. Je pense que c'est très facile en vrai.
Qui a eu 17 au bac à n'importe quelle matière?
Moi, je vois un truc quand même là.
Allez, tout le monde a changé de sujet.
Non, j'ai eu 15. Ma plus haute note, c'est 15.
Ah ouais, ouais. Moi, j'ai l'impression que là, on est en poète maudit, tu vois. On aime bien la philosophie et on aime bien le cinquième élément. Posez-vous les bonnes questions, peut-être.
Exactement.
Bah, et oui, et la matière pour laquelle tu étais la plus nulle?
Les maths, c'est toujours le cas.
Les maths?
Ouais.
Moi aussi, je suis nul en maths, de fou. Toi aussi, Guillaume, t'es nul en maths?
Non, alors là, non.
Ah non, t'étais fort en maths, toi?
Non, j'étais une quiche.
Voilà. Aurélien, t'es nul en maths, toi, non?
Non, moi j'étais bon en maths.
Ah ouais?
Ouais.
Oh, le détective
le
privé là.
Regardez-le le matheux là-bas.
J'ai 17 en bac. Au bac.
Il était bon en tout, lui.
Le théorème de Pythagore, tu peux nous rappeler?
Non, ça m'intéresse plus maintenant.
Ok. Et le Thalès?
Oui, bah Thalès, Pythagore, ça va.
Voilà, vas-y, dis-le toi, Thalès.
Ah non, moi je suis nul, j'ai dit
Thalès. Dis-le, Thalès.
Non, mais Thalès. La géométrie, j'étais pas très chaud moi. C'était plus les chiffres là, l'algèbre. Je savais compter quoi.
En vrai, j'aimerais bien savoir à quoi sert le théorème de Thalès. Dans ta vie de tous
au
les jours.
Au quotidien, ouais.
Bah
ouais.
Si, quand même.
C'est quand t'es à la NASA ou genre t'as besoin du théorème de Thalès?
Bah non, frère, quand tu mets un meuble dans ta maison, t'as besoin de savoir où est-ce que tu le fous, bah t'as les triangles.
N'importe quoi.
Bah si.
N'importe quoi, lui. Regardez-moi le matheux, là, qui donne le son.
Tu fais du bricolage, la géométrie, en vrai, ça sert quand même pas mal.
J'ai déjà monté plein de meubles IKEA, j'ai jamais pensé à Thalès.
Oui, bah d'accord.
Ouais, d'accord. Mais, le débat, il est bien. Hein.
Je veux dire, où est-ce qu'on va, en fait?
Le débat, il est bien.
Non, mais 17 en philo, pardon. 17 en philo.
Bravo.
17 en philo, on n'a même pas appelé. 17 en philo, c'est exceptionnel. Exceptionnel, 17 en philo. Ah oui.
Alors, le langage inventé. Alors, ça, c'est marrant. En fait, il y a eu un langage qui a été inventé justement pour le personnage de Lilo. Eh bien, figurez-vous que ce langage.
Mais pourquoi tu dis Lilo?
Il est en fou, lui. Pourquoi il dit Lilo?
Lilo!
C'est un rappeur, Lilo, merde!
Mais écoutez, je vais vous dire une chose. J'aime pas ce film. Donc, en fait, je vais pas prendre soin de bien dire les noms des personnages parce que je l'aime pas. Voilà.
Lilo, c'est le magazine là. C'est magazine avec les sorties.
Mais
là,
c'est Lilo.
Lilou.
Lilou.
Oui.
Bah voilà, tu l'as même pas. T'as dit Lilo, toi.
Mais non, je disais justement, c'est pas Lilo. Lilo, c'est un rappeur.
Bah ouais.
Non, c'est Lilo, le rappeur.
Oui, bah là, c'est Lilou.
Bon, Lilou, très bien.
Ouais.
Ouais, bon, ouais, Lilou. Donc Lilou. Je trouve plus nul que Lilo en plus. Lilou.
Lilou.
Ouais. Donc Lilou, bref, il y a un langage inventé pour Lilou, etc.
J'espère que les auditeurs ne sont pas fans du cinquième élément.
Ah bah là, c'est...
Bon, en tout cas, toujours est-il que ce langage a été inventé par le réalisateur, le scénariste, etc. machin et tout. Et ils ont appris ce langage. Et ce qui est drôle, c'est qu'ils ont créé un propre langage, rien qu'à eux, et à la fin, ils communiquaient dans ce langage-là, le scénariste et Mila Jovovich. Ils ont appris à communiquer avec ce langage inventé. C'est quand même assez incroyable, non?
Bah, tout ce qu'il faut, c'est qu'ils l'ont jamais réutilisé après.
Bah non.
Quoi. Qu'ils ont appris de l'an pour un.
Bah, c'est ça.
C'est génial. Un peu comme
et apparemment, elle avait grave galéré, Mila Jovovich. Tu m'étonnes.
Ouais, c'est sûr.
Au début du film, le président demande au prêtre, incarné par Ian Holm, de lui expliquer son point de vue en 20 secondes. Eh bien, si vous prenez un chronomètre, vous vous rendrez compte que son point de vue dure exactement 20 secondes.
Ah, c'est ouf.
Incroyable.
Ben oui, c'est Tabzien, que voulez-vous. C'est comme ça. Ça vous souffle parce que c'est Tabzien.
Je suis époustouflé là.
Bah oui. Lorsque. Tiens, allez, je vais bien le dire, je vais vous faire plaisir. Lorsque Bruce Willis rencontre Lilou,
ouais.
Parce qu'apparemment ça vous, ça vous chagrine. Lorsque Lilou. Bruce Willis rencontre Lilou pour la première fois, il ne sait pas ce qu'elle dit. Parce qu'elle est dans le taxi comme ça, puis elle a son langage, etc. En fait, le réalisateur Besson avait dit à Bruce Willis, je te dis pas ce qu'elle dit en vrai, parce qu'elle dit quelque chose, mais je te dis pas, donc en fait tu vas vraiment réagir à ce qu'elle dit. Ce qui fait que lui, il a ce langage qu'il ne connaît pas. Et en fait, les réactions qu'on peut voir à l'écran, c'est les vraies réactions d'un type qui capte rien à ce que la personne lui dit, en fait. Donc c'est de l'impro. Très cool.
Est-ce que je peux rajouter une anecdote?
Mais bien sûr. Attends, mais c'est le lieu, c'est le podcast pour le faire.
Bah justement, pour conserver ce naturel à l'image, dans la scène que vous adorez tant, de la scène de l'opéra, personne n'avait vu Mai Wen dans son costume. Et en fait, quand ils ouvrent le rideau et qu'elle commence à chanter, et bah, c'est les vraies réactions du public.
J'adore. C'est Tabzien ou pas, les gars?
Très Tabzien.
Très Tabzien, bravo.
Oui, c'est Tabzien, bravo.
Bravo.
Très belle anecdote. Tu remplaceras Aurélien.
De toute façon, il est cancel, le mec. Il a parlé des nazis. Si tu veux bien,
je ferai un petit contrat après. Toi qui freelance, on va pouvoir s'arranger. Ça te fera plaisir ou pas?
Avec grand plaisir. Ah ouais.
En plus, t'as vu, toi, peut-être que tes chroniques sur les mannequins, on les écoutera en entier. Apparemment, t'as plus de, quand même,
très bien
là-dessus que moi. Ça marche plus, là. N'écoute plus, le gars.
Oh mais si, je t'écoute, mais je t'écoute tout le temps, je bois tes paroles.
Ouais, c'est ça. Il est vénère parce que j'ai gagné un jeu où il a perdu sur un kitoutou.
Ah non, c'est moi qui ai gagné, par contre.
Ouais, voilà, c'est ça.
Figurez-vous qu'à la base, Le Cinquième Élément était une trilogie, trois scripts existaient et Luc Besson les a condensés en un seul film. Mais t'aurais pu avoir trois Cinquième Éléments, toi qui adore ce film, ça.
Ouais. Je sais pas si ça aurait été une bonne idée, parce que moi
non,
je l'aime pour
pas.
Son unicité, quoi.
Je pense
Est-ce que ça aurait été le Sixième Élément, le Septième Élément?
Ah, j'ai une question pour vous.
Okay,
pour son personnage. Mais non, mais là, il n'y a pas vraiment de réaction là-bas.
Je suis vraiment viré de ce podcast en fait.
Figure-toi, c'est à toi que je m'adresse.
Ah.
Ça fait plaisir que je m'adresse à toi.
Merci, c'est gentil. Ouais.
Pour son personnage, Gary Oldman s'est inspiré d'un personnage de cartoon. À ton avis, lequel? Vous pouvez aussi jouer Sarah et Guillaume. Non, il s'est inspiré d'un personnage de cartoon. Il a regardé beaucoup de cartoons, beaucoup de dessins animés. Il s'est dit, ok, je vais un peu m'inspirer de
ça. Ah, Sam le pirate.
Non, ça rate un petit. Ça fait partie de l'univers.
Warner Bros. Ouais, voilà.
Ouais.
Le coyote?
Non, pas le coyote. C'est plus évident que vous pouvez le penser.
Ah ouais?
Elmer?
Bugs Bunny?
Non. Bugs Bunny, Guillaume.
Il vient de le dire.
Ah, pardon.
Non, il m'écoute pas.
J'ai pas entendu, mais en même temps, t'es loin de moi, j'entends pas.
Okay.
Bugs Bunny. Donc, c'est
on a
Bugs
des
Bunny.
Micros, mais bon.
C'est Bugs Bunny, effectivement, Aurélien. Okay. Bravo.
Bah, c'est moi qui l'ai dit.
Je crois que c'est toi qui as gagné le jeu, je crois aussi.
Très bien. D'ailleurs, en vrai, quand tu regardes le film, il ressemble à Hitler en fait. Non, mais c'est vrai, c'est pas pour rigoler, c'est vrai. Et bah, tu rigoles? Ah, tu sais pourquoi tu rigoles? C'est Gary Oldman lui-même qui l'a dit, Aurélien. On rigole moins maintenant. C'est Gary Oldman qui, dans une interview, a dit mon perso, physiquement, ça se voit qu'il est inspiré d'Hitler, quoi.
Bah, il a sa petite mèche là.
Bah oui, c'est ça.
Mèche en plastique là.
Bah oui, Zorg. Venu. Ah oui, alors ça, c'est pas mal. En gros. Besson est venu à New York pour essayer de convaincre Bruce Willis.
Ah, il voulait pas le faire au début?
Non, au début, il était là, genre, je sais pas trop, parce que tu sais, il sortait de Hudson Hawk, de pas mal de flops et tout, et donc il était pas trop chaud, il avait peur de faire un énième flop.
Okay.
Et Besson lui dit, écoute, je viens à New York et je te file le script et on voit, tu vois. Besson arrive, il lui file le script, Bruce Willis l'a lu en 2 heures et il lui a dit, ok, je le fais. Donc c'est-à-dire que tout ça s'est réglé en l'espace de 2 heures, quoi, ça, c'est cool.
Ah.
Et en sachant que il était normalement ses cachets étaient beaucoup plus élevés, mais
exactement.
Il a accepté malgré tout parce que le scénario lui a plu.
C'est ça, exactement.
Là, une bonne chose avec tes anecdotes. Avec tes anecdotes, tu lui apprends rien, c'est bon.
Non, j'ai appris des trucs.
Oui, tu m'as appris des trucs.
Ah alors.
Bugs Bunny, je savais pas.
Ah.
Mais je crois pas à la vérité de cette info. Cela dit, je vois pas la ressemblance entre Bugs Bunny et Zorg.
Pardon.
Je pense que c'est faux.
Mais c'est quand même
un mec qui dit Lilo.
Tout est toujours très vérifié dans ce podcast.
Non, ça marche.
Le rôle de Chris Tucker, vous l'avez bien en tête.
Oui, c'est Chris.
Eh bien, avant lui, Besson avait dressé une liste d'artistes pouvant interpréter ce personnage. Nous avions, en numéro 1, c'était ses choix, hein, ses envies, en numéro 1, Prince. Il voulait que ce soit Prince qui joue ce perso.
Bah, en même temps, oui.
En numéro 2, il voulait que ce soit Michael Jackson.
Ça, pour lui, il est fou.
En numéro 3, il voulait que ce soit Jamie Foxx. Et finalement, ça a été Chris Tucker. Et bah ouais,
Jamie
Foxx
aurait été stylé aussi.
Ouais, ouais,
bien
Fox
sûr.
Aurait été bien.
Mais en vrai, moi, je vois pas Michael Jackson faire ce rôle parce qu'il est trop cartoonesque et trop comique, tu vois. Mais...
Après, peut-être qu'ils l'ont transformé, mais...
Prince, ouais, je sais pas. Peut-être
en vrai, c'est un des premiers vrais grands rôles, enfin, dans une grande production de Chris Tucker, si je me trompe, parce que c'est avant Rush Hour, c'est plus ou moins en même temps que Jackie Brown, et c'est juste après Friday, quoi.
Donc, c'est vrai.
À l'époque, Chris Tucker, moi, je découvre Chris Tucker dans ce film.
J'ai bu cinéma, chacune de tes paroles, Aurélien. Okay, tout merci. Ce que t'as dit, j'ai bu.
Okay. Et vu que tu adores boire, c'est ton élément.
Bah, tu vois, tout
se regroupe.
Voilà,
et enfin, dans ce film, il y a donc l'acteur Ian Holm. Et c'est drôle car cet acteur, on l'associe pas mal à la science-fiction, alors qu'il n'a joué que dans deux films de ce genre-là, Alien, où il joue H et le cinquième élément. Ah, et oui. C'est vrai que quand on voit Ian Holm, on se dit, ok, il est souvent dans les films de science-fiction, lui. Bah, non, juste deux. Voilà, c'est le. Comment on appelle ça le. Pas le droïde, le. Merde,
le Hobbit.
Non, dans le cyborg, on appelle ça un cyborg dans Alien.
Ouais, tu parlais de son rôle du Hobbit.
Ouais, oui, c'est vrai que
lui qui a joué le Hobbit.
On l'aime bien, Ian Holm.
Ouais.
Oui, bien sûr qu'on l'aime bien.
Et c'est vrai qu'il est pompé sur Obi-Wan Kenobi de fou. Hein,
bien sûr, même la tenue. Ah, hein.
Oui, mais vrai. Même comment il se tient.
Ouais, et la tenue aussi.
Ouais,
il a pompé. On approche désormais de la fin de ce podcast, mais avant de se quitter le segment du dernier et de la dernière, tout ce que notre invité a accumulé culturellement ces dernières semaines, première question pour toi, Sarah. Le dernier film que tu as vu au cinéma?
Alors, je suis partie en vacances entre-temps, donc ça fait un certain temps, mais je crois que le dernier, c'était Yannick.
Ok.
Quentin Dupieux, en sachant que je n'aime pas ce que fait Quentin Dupieux habituellement. C'est la première fois que j'étais sortie d'une salle de cinéma énervée, que j'avais vu, je crois que ça s'appelait Réalité,
avec Chabat.
J'avais détesté. Et là, pour le coup...
T'étais énervée, mais quand t'étais énervée? Tu tapes dans les murs comme ça, là? Qu'est-ce que tu fais?
Mais j'ai hésité plusieurs fois, tu sais, pendant la séance à sortir. Alors déjà, ça, c'est un sentiment. Ah, c'est parce qu'à l'époque, je payais ma place. Là, maintenant, je suis avec la carte UGC, donc c'est moins la même chose. Tu peux sortir sans trop culpabiliser.
Dernier film pour lequel t'es sortie en plein milieu, comme ça?
Comment il s'appelle? Man. Un film...
Man
ouais.
Men avec eux.
Ah, Men.
Ah, t'es sorti?
Je suis sorti, j'ai
c'est quoi,
détesté.
Ça
ah ouais?
J'ai détesté.
Ah, il a bien aimé,
j'ai pas vu la fin.
Il est spécial, hein.
J'ai dû regarder la fin sur YouTube, carrément. Ouais, parce qu'on m'a dit, ouais, la fin est terrible.
Ouais,
etc.
La fin, elle est ouf.
C'est quoi? C'est
très très dur. C'est un film A24, un peu d'horreur.
Mais c'est pour ça que je suis partie voir, parce que c'était A24, et je me suis dit, vas-y, moi j'aime.
Il est dur,
mais là, pour le coup,
il est oppressant. Très oppressant. En fait, t'es sorti parce que c'est pas parce que t'as pas aimé, mais c'était oppressant.
Les deux.
Très oppressant.
Les deux.
Très
oppressant. Ouais, non, il y a eu un combo. J'avais envie de m'endormir en même temps. Je comprenais rien. Ça m'a saoulé. Je suis partie.
Et ben, en parlant de dormir, en réalité, je m'étais endormi. Et alors, quand tu t'endors pendant Réalité de Dupieux, quand tu te réveilles, c'est horrible.
C'est foutu. Ouais.
Je suis à brûler. Laisse tomber.
Ouais, c'est relou.
Je comprenais rien.
Et pour le coup, Yannick, j'ai beaucoup kiffé parce que j'aime bien les huis clos, moi, de base. Donc.
Ouais, là, puis c'est drôle. Et ce que j'aime aussi, c'est que c'est concis, c'est rapide. Tu
ouais.
Vois,
t'avais pas aimé Au Poste?
Je crois même pas l'avoir vu.
Au Poste, c'est cool.
Ouais, il est bien.
C'est pareil, c'est un petit 8 kilos et tout qui se passe dans un commissariat.
Avec Quentin Dupieux aussi.
Absurde.
Ouais, ouais, ouais.
Ok.
La avec. Je veux dire de la.
Mais d'ailleurs, la fin,
il y a Poulvord et l'acteur en face, je sais plus comment.
Ouais, la fin de Au Poste,
on peut dire qu'il y a un peu un lien avec Yannick, du coup.
Ouais.
J'ai pas vu Yannick, je peux pas dire. Mais...
Le dernier film que tu as vu via une plateforme.
Que j'ai revu. Genre.
T'as vu ou revu, mais le dernier film que tu as vu.
Ouais, avant-hier, je crois, j'ai regardé The Place Beyond the Pines.
Ah, oui. Super film.
La première fois que je l'avais vu, ce film, je crois qu'il m'avait pas marqué, que ça m'avait presque saoulé. Et au final, là, quand je l'ai revu, mais j'ai adoré.
Bah, c'est trop bien ce film.
Mais oui, j'adore le fait que ça soit découpé en chapitres comme ça et que tu suives à chaque fois un nouveau personnage.
C'est trop bien. La dernière série que t'as regardée?
Painkiller sur Netflix.
Est-ce que tu peux nous dire ce que c'est?
C'est sur la crise des opiacés aux États-Unis. C'est inspiré d'une histoire vraie, enfin de la réalité. Quoi.
Et c'était bien.
Et c'était génial. Et c'est avec
l'actrice. Non, c'est celui-là?
Non.
Ah non, je me suis planté, pardon.
Non, je vois de quoi tu parles, mais c'est pas...
C'est un autre truc sur Disney+.
Oui.
Mais qui parle aussi des les docteurs sur les opiacés et tout.
Non,
le fait
là,
de
c'est avec... Elle s'appelle Ubu... j'ai oublié son nom. Ubu... je sais plus. Mais c'est l'actrice principale, celle qui joue l'avocate, et qu'on a vue dans Orange is New Black. Et elle joue un rôle totalement différent, donc c'était intéressant de l'avoir dans ce
rôle. T'as vu la série Tapis ou pas?
J'ai commencé, je crois que je suis au troisième épisode...
T'aimes bien? Moi j'ai bien aimé Tapis. Qui a regardé Tapis ici?
Non, j'ai pas vu moi encore.
J'ai bien aimé Tapis moi.
J'ai la flemme des séries.
J'aurais bien aimé. Vous en parlez, mais personne ne l'a vu apparemment aussi. J'ai bien aimé Tapis.
Voilà. Mais toi, c'est un gars du foot.
Non, mais pas forcément. Non, mais au-delà du foot, le personnage est fascinant. Quoi.
Oui.
Ouais.
Et après, et en fait, j'ai parlé avec pas mal de gens qui ont vu Tapis. Ils ont tous ce réflexe après la série que j'ai eu. C'est pendant 2-3 jours de mater plein d'interviews de Tapis sur YouTube après. Quoi.
Donc, personnage.
Ça, c'est assez cool. La dernière chanson que t'as écoutée?
Qu'est-ce que j'ai écouté en venant? Je crois que j'ai écouté Nino Central C.
Ballon de 30, on fait manger la jungle. J'avais les Air Max, mais j'ai rangé. J'ai mis le Hermès avant le jingle. Desert Eagle. Sur la gâchette, j'ai mis le finger. Tête craquante, j'ai mis dans le grinder. Pour avoir le bénéf, fallait la rigueur. toujours Havana le cigare. Et la caille fait mal à mon petit cœur. On passe du rouge au vert dans un grimace. Un seul glaçon dans ma liqueur.
Le dernier livre que tu as lu?
Lettre ouverte aux animaux. C'est un livre de Frédéric Lenoir et c'est une sorte de réflexion autour de la place qu'on accorde aux animaux dans le monde, l'exploitation, la surexploitation. C'est super intéressant, je vous le recommande.
Bravo, stylé.
La dernière BD ou le dernier manga que tu as lu, si t'en lis, bien sûr.
Je ne lis pas de BD ni de manga. La dernière BD que j'ai dû lire, c'était un Tom Tom et Nana, quoi.
Ok, non mais ça compte. Hein.
Ça compte.
Ça compte en vrai. Le dernier objet culturel que tu as acheté. Alors ça peut être... tu vois, un disque ou un film ou un objet ou un vêtement, mais rien avec la culture.
Un livre. C'est un livre sur les 300 dernières covers du magazine Vogue. Donc okay. C'est un livre qui est décoratif et en même temps, ce sera pas feuilleté, quoi.
Un livre de table basse.
Exactement. Ouais.
Et enfin, le ou la dernière artiste que tu as suivi sur Insta.
J'ai follow récemment Nadia Lee Cohen, c'est une photographe qui a shooté récemment Kim Kardashian pour le magazine de Karine Rothfeld, CR Fashion Book. Et c'est super intéressant parce que c'est la première fois qu'on voit Kim Kardashian dans ce type de physique. Elle a les cheveux extrêmement courts, elle a un maquillage très burlesque, ça fait très cinéma. Et j'ai trop kiffé son travail.
J'ai une nouvelle formidable pour vous. Pendant que tu me parlais de ça,
ouais.
La maison m'est revenue.
Oh là
la maison qui m'avait casté m'est revenue. Et c'est la maison Martin Margiela.
Quoi?
Mais on l'a dit.
Non, on l'a pas
Margiela,
dit.
Margiela, frère.
Non, on l'a pas dit.
Bah, c'est chouette, quand même.
Ouais.
Bah oui, c'est bien Margiela.
C'est la jardin, c'est pas vraiment de la haute culture.
Si,
et
non,
tout.
Non, mais c'est Martin Margiela.
Ok.
Bah c'est voilà. Chouette, quand même.
Et j'ai encore le.
La photo la...
Non, j'ai encore la carte qu'il m'avait donnée dans la rue, elle est encore dans, chez moi.
Bah, elle s'en fait, Margiela, quand même.
Alors, je vais souffler là, avec Martin Margiela. Hein. Je suis content d'avoir retrouvé avant la fin. Bah écoute, ce podcast est désormais terminé. Sarah, est-ce que tu peux nous en dire plus sur ton actu? T'en as un peu parlé au début, mais qu'est-ce que tu comptes faire? Parce que là, t'étais chez Bouscapé avant.
Exact.
Et là, c'est une nouvelle aventure qui commence. Quelles sont les envies, les ambitions?
Les envies, c'est de proposer du contenu qui me ressemble plus, tu vois. J'ai envie de faire des choses qui me plaisent, donc c'est de parler de mode, c'est de montrer des bonnes adresses, c'est de montrer comment tu peux styliser des paires qui viennent de sortir, etc. Des choses voilà, que j'ai pas eu l'occasion de faire par le passé et que j'ai envie de faire. Donc j'ai hâte de faire découvrir ça. Et j'aimerais bien essayer de parler un peu de cinéma aussi.
Bah pourquoi pas. Parce que très souvent, dans tes stories, tu
parles de cinéma. Ouais.
Tu parles de cinéma et tu vas très souvent voir des films.
Ouais.
Moi, il y a un Reels que j'ai adoré sur ton compte Insta. D'ailleurs, je vous... conseil de vous abonner à son Insta. Tiens, une petite promo, ton Insta, qui s'appelle
Sarah Rory, tout
très bien.
Simplement.
Avec un H.
Ouais, je m'abonne.
Oh, merci.
Oh là là. Tu t'abonnes, toi, Aurélien? Tu t'abonnes, Aurélien?
Il est déjà abonné.
Oh, joli.
Attends,
incroyable.
Oui.
Et non, et t'as fait un reel que j'ai adoré. Récemment, t'étais au Maroc.
Exact.
Et en fait, quand tu vas au Maroc, eh ben, tu t'occupes des chiens et des chats qui sont là-bas. C'est-à-dire qu'à ton humble échelle,
ouais.
Tu vas acheter des croquettes, tu vas acheter à manger, puis tu leur donnes à manger aux chats, aux chiens, et j'ai trouvé ça très touchant. Et moi, j'adore les gens qui font ça. Quand je vais à l'étranger, j'essaye très souvent, quand je croise un animal errant comme ça, de lui donner à manger, de m'en occuper. Et toi, tu le fais, et ça va au-delà parce que tu racontes un peu ce que font les gens comme ça là-bas. Est-ce que tu peux nous expliquer un peu? Parce que moi, je trouve que c'est cool de parler de ça.
Eh bien, déjà, merci. C'est vrai que je fais ça depuis quelques années maintenant, mais j'avais eu l'envie d'aller un peu plus loin en essayant de mettre en avant une association. Il y en a plusieurs sur Marrakech et au Maroc. Mais l'association Ranch Beldi, qui s'occupe de faire de la TNVR. Donc, c'est ce qui permet de prendre les chiens de la rue et de les stériliser, les vacciner, pour ensuite les remettre dans la rue et qu'ils puissent vivre librement avec un espèce de tag à l'oreille. Et comme ça, c'est plus considéré comme une menace pour la population ou pour les autres animaux. Parce qu'il faut savoir qu'au Maroc, il y a plus de 3 millions de chiens errants et qu'ils sont dépassés aujourd'hui par la situation et que, malheureusement... Ils entreprennent de les tuer, en fait, tous ces chiens-là. Donc, la solution qu'il y a aujourd'hui...
On sera obligé de reparler d'un truc marrant avant d'arrêter le podcast.
Oui, désolé, ouais, je cours un peu le truc, mais...
Faudra trouver un truc, on s'arrêtera pas maintenant, ça veut dire.
Mais du coup, c'est une solution que de stériliser les chiens, etc. Donc, ça nécessite des fonds, de l'argent, etc. Donc, n'hésitez pas à aller voir le travail d'association.
En tout cas, le message, c'était quand vous allez à l'étranger et vous voyez un chat ou un chien errant,
ouais,
soyez gentil avec cet animal, donnez-lui à manger, faites-lui des caresses.
Soyez gentil avec tous les animaux, tout court.
Oui. Non, tous les animaux, mais ça, en général, c'est les animaux qui sont vraiment genre dans le mal.
Plus dans la détresse, bien sûr.
Et adopter aussi, éviter d'acheter des chiens, des chats, adopter les animaux, les refuges sont bondés.
Et donc, quand vous adoptez, moi c'est un vrai message que je veux faire passer, quand vous adoptez, gardez l'animal jusqu'au bout, en fait.
Ouais.
Parce que adopter, c'est un vrai geste fort, en fait. Donc c'est pas genre juste un délire de « Ah ok, puis au bout de 3 mois, ah finalement c'est compliqué d'avoir un animal, etc. » Adopter, c'est un vrai geste fort.
Carrément.
Est-ce qu'on se dit un truc marrant avant de se quitter? Parce que là, du coup, c'était un peu badant. T'as un truc marrant à dire, Guillaume, toi?
Bah, j'ai une anecdote, mais tu vas en parler dans un autre podcast.
Ah, mais oui, c'est vrai. Non, mais c'est... Oui, c'est dans un autre podcast.
Mais là, mais il a trop teasé, là.
C'est... Non, mais c'est pour celui de jeudi. L'épisode qui sortira jeudi. Guillaume aura une anecdote, c'est ça, hein?
Que très bonne,
hâte de raconter.
On peut dire déjà ce qu'on a vu ou pas, non?
Non, mais non.
On dit pas. On est allé au cinéma récemment avec JB.
Et il s'est passé un truc.
Alors, on peut dire déjà la salle est exceptionnelle. Le cinéma où ça y est, maintenant on a les sièges. On a
est-ce
les
que c'est pas le meilleur ciné de Paris?
Les jambes qui se relèvent, le siège qui s'incline. On est parti dans un transat de
salon. Pour moi, il y a deux meilleurs cinés à Paris, c'est l'UGC Normandie et la salle 1, là, vous devez la connaître. Et le pâté Beaugrenelle, là, avec les sièges, la salle Dolby avec les sièges. Voilà. Ça, c'est incroyable, ça.
C'est un grand plaisir.
Tiens, il y a des puces de lit au TGV maintenant. Dans les, ah ben.
Sans transition.
Non, mais sans transition, c'est l'info que je vous donne.
Non, réel,
si vous voulez, il me reste un mannequin pour.
Non, tiens, raconte un souvenir marrant de voyage. J'ai pas envie qu'on reste sur les chiens comme
raconte
ça.
Raconte un souvenir marrant de voyage.
On est parti à New York, à Tokyo. Raconte-nous un souvenir marrant.
Un souvenir marrant de voyage qu'on a eu.
Un souvenir marrant de voyage.
Qui fait nous rire.
Raconte-nous un souvenir marrant de voyage.
Qu'on a eu tous les deux.
Ouais.
Qu'est-ce qu'on aurait eu tous les deux?
Au Dixie, par exemple.
Au Dixie, on a bouché.
On a bouché.
On a bouché. Ça commence bien.
Non, il a bouché les chiottes du Dixie.
Alors non. Deux fois déjà, et c'était pas moi.
Si,
c'était
toi.
Et moi.
Alors,
bref, on a pris une chambre dans un motel, et le premier jour, on a bouché les chiottes.
Non, c'est toi qui as bouché les chiottes.
On a bouché les chiottes.
Non, vous voulez savoir pourquoi c'est lui qui a bouché les
chiottes?
Un travail collectif. Non, attendez, je vous dis un truc. C'est lui qui est allé chercher le truc à l'accueil. Et quand c'est toi qui as allé chercher, c'est que c'est toi qui as bouché.
Je vais vous dire une bonne chose. Si un jour vous gagnez
sur les chiens.
Si un jour vous gagnez un voyage avec JB, voilà. Bon, vous gagnez un voyage avec JB. Ce qu'il faut savoir, c'est que JB à l'hôtel, il veut pas que le ménage passe dans la chambre. Donc si vous avez une chambre pendant une semaine avec JB, bon, c'est un bordel sans nom. Nous, on était là, on bouffait des chips, des trucs dans le plumard et tout, c'était cata. À la fin de la semaine, il y avait du sable dans nos lits.
Oh
et c'était
là
même
là.
Pas l'été et tout.
Et dans celui de Guillaume, il y avait des pots de bananes noires.
C'est pas on était allé à la plage ou quoi. C'était, il y avait du sable dans le lit et genre on dormait là, on était là.
Pourquoi tu veux pas que tu habites dans la chambre?
Si, en fait, par exemple là, récemment, quand j'étais au Festival de Cannes, au Marriott, j'étais là genre, ok.
Oui, au Marriott, tu veux bien, mais au Dixie, il veut pas.
Mais non, parce qu'en fait, là, c'était un motel vraiment miteux, etc. Et nous, on avait plein de matos dans la chambre. Et en vrai, je m'étais dit, je veux aucun risque de vol parce que tu sais on a un tournage à faire etc donc tu sais j'étais un peu stressé par ça parce que j'avais lu des histoires de vol dans les chambres d'hôtel et tout et du coup la chambre était effectivement dégueulasse à la fin et donc voilà. Après, mais de toute façon même quand on va dans les beaux hôtels la chambre
non mais il y a très peu d'amis où tu partages des chambres tu sais genre vraiment partager une chambre c'est un mot bon allez on est bon c'est à dire que tu vas aller au chiottes je vais t'entendre et ça tu sors en slibard et tout bon c'est tu vois il y a des contacts comme ça tu vois
oui.
T'en fais partie bravo
ah non mais ton intimité n'a plus aucune
une fois on a dormi à Frames dans une grange
oui
et en fait il y avait une grange on dormait en haut de la grange et en fait les chiottes et la douche c'était en bas mais il n'y avait pas de toit à la pièce du bas.
C'est-à-dire
qu'en fait, donc tu voyais de haut, tu voyais ton pote sur les
chiens. Tu te rappelles ce qui m'était arrivé dans cette grange? Genre, un jour, en
oui,
fait,
le propriétaire était arrivé.
En fait, c'était un Airbnb. Et genre, je suis en train de me laver comme ça, et moi, je suis à l'étage. Et en fait, à l'étage, il y avait une porte qui donnait sur la maison des voisins, et c'était la maison des propriétaires. Et donc, je suis en train de me laver et tout, puis j'ai ma serviette, puis je suis complètement à poil et tout. Et le mec, il arrive, il fait « Au fait, pour ce soir... » Et moi, je suis complètement nu, quoi, tu vois. Mais il me parle. Il continue de me parler. Donc, « Pour ce soir, au fait, pour la chambre, faut la laisser...
Ouais, » Il est à 18h.
Arrêtez, à 18h, oui. Enfin, bref. Bon, écoutez, c'est la fin de ce podcast.
Ah, on est passé par tous les sujets.
Oui, par tous les sujets.
J'ai l'impression qu'on a parlé de plus d'autres choses que du cinquième élément.
Mais en fait, c'est le concept.
C'est toujours
en fait...
comme ça.
Non, mais justement, non, mais, par contre, c'est une très bonne question que pose là Sarah. Parce que...
C'était pas une question. Hein.
Non, mais c'est, non, mais,
non, c'est
une très belle réflexion.
Elle a trouvé ça nul, les gars.
Non, mais
c'est tout. Elle a trouvé ça nul,
c'est une très belle réflexion que vient de faire Sarah. Parce que l'essence même de ce podcast, depuis le début, depuis We Love TFTC et maintenant TFTC le podcast, les gens disaient ah, parfois vous parlez pas du film. Moi, j'ai toujours conçu ce podcast comme un film. Et après, il y a des satellites autour et on tourne autour de ce film. C'est-à-dire que
c'est une discussion,
y a un film,
quoi.
Et en,
voilà,
fait, voilà.
Hein,
et en fait, c'est un prétexte pour qu'on parle de plein de trucs marrants, mais on se ressent toujours sur le film, quoi qu'il arrive.
C'est vrai que là, on a bien recentré à la fin.
Ah, non, mais oui, vous avez adoré.
J'étais à poil dans le Airbnb. Bon, ben voilà, mais merci.
Moi, j'ai trouvé que c'était une très belle émission ce soir.
Ah oui.
Ah,
voilà,
ah, j'ai beaucoup apprécié.
On s'est régalé. Très bien, bah, écoute, Sarah, on te souhaite plein de bonheur pour la suite des événements. Bah, nous, on a le trail ensemble. Tu penses que je vais y arriver ou pas?
Mais totalement, tu nous as épaté sur le DICA.
Une autre question,
j'ai...
une autre question.
Non, j'en ai croisé là-dessus.
J'ai une question à propos de ça. Vous allez faire le trail ensemble,
ouais.
À ton avis, Sarah, qui va arriver avant l'autre, entre vous deux?
Ah, mais c'est Sarah, c'est sûr.
Ah, d'accord.
Ah, mais moi, j'ai, ah, mais moi, j'ai aucun problème là-dessus. Sarah est beaucoup plus forte que moi, clairement.
T'as mis combien de temps pour faire le 10?
Une heure, j'étais content.
Elle a fait 59. Menteur, t'as fait 1h05, non?
Ah oui, 1h05.
Elle commence pas à arrondir.
Allez.
S'il te plaît.
T'as fait combien? Elle avait dit tout à l'heure qu'elle était mauvaise perdante.
Elle m'a dit 59. Elle m'a
59.
Ah, 59, t'as fait?
Ah. Et si je dois dire la vérité complètement, 59.
Ah bah, une
allez
heure.
Non, c'est pas une heure.
Oui, non, ça.
C'est pas une heure.
Non, mais oui, non, mais en fait.
59 et 59. Ah oui, oui.
Alors, Guillaume, j'ai un truc que j'ai appris dans ce milieu.
Oui.
C'est que chaque seconde, une minute compte. Ils sont très au fait.
Oui, alors que toi, tu dis une heure, en fait, c'est 1h07.
Non, c'est 1h05, elle était moins.
1h05, bravo. Ouais.
Et voilà, et tout le monde était un peu épaté au Parc des Princes.
C'est vrai, il a sauté sur la table, dans les vestiaires.
Ouais, vous avez vu. Il a bien mis en story. Il a bien mis en story.
Ah bah oui, j'étais heureux.
Bah oui, on était tous très heureux.
Non, mais par contre, tu veux que je te dise un truc, Sarah? Vraiment. Moi, je fais pas de sport, je mange mal. J'ai jamais. Même pour vous dire un truc, j'ai pas mon bac. J'ai pas le permis, j'ai jamais eu de truc comme ça, quoi, tu vois. Et là, en fait, bon, mais il y a une médaille, quoi, tu vois, à la fin. Mais Nike m'a proposé ce challenge, ils m'ont accompagné, ils nous ont accompagnés, etc. Et moi, j'étais un peu à la traîne, genre les entraînements, vous avez vu, etc. J'avais un peu de mal et tout. Et le jour J, quand j'ai réussi à tenir, parce que j'ai pas marché pendant les 1 heure, j'ai vraiment fait le truc, j'étais épuisé à la fin et tout. Et quand je suis rentré dans la salle, sincèrement, Sarah, c'était un des plus beaux moments de ma vie. Parce que je m'y attendais pas. Quand les gens m'ont vu, quand vous m'avez tous vu, vous m'avez tous applaudi, vous m'avez tous pris dans les bras, etc. Comme un truc de ok, on savait que t'étais un peu celui qui était à la traîne et finalement t'as réussi. Et franchement, j'étais hyper ému. Mais comme rarement j'ai été ému dans ma vie.
Tu sais que ça me rappelle quand je te défonce à Mario Kart et que tu m'applaudis et tout là. Ça m'émeut à chaque fois. À chaque fois,
il
je
a cassé
dis,
ce petit moment.
Oui,
émotion,
c'était bien, arrête.
C'était bien. Tu vas mettre un petit piano derrière, mets un petit piano.
Ah, je vais mettre un petit piano derrière quand je
vais
raconter ça.
J'étais
hyper ému. Parce que la fois, on s'est quitté sur BTC, là, on va se quitter sur le petit piano.
J'aimais parce que tout à l'heure, il dit oh, une sensation agréable, c'est le soleil sur la peau. Vous êtes oh, le poète là. Et lui, il est là. Quand je suis rentré dans le vestiaire au Parc des Princes après cette course, tu sais, j'ai jamais rien gagné dans la vie, j'ai même pas le permis.
Calme-toi. Sarah, c'est pas vrai que, franchement, et moi je le savais pas avant, mais le sport, ça te procure des trucs, une sorte d'adrénaline comme ça où tu ressens mille fois plus les choses, c'est vrai ou pas?
Si, c'est vrai.
Alors,
ça, je suis...
Mais non, tu peux pas savoir, t'es pas un sportif.
Alors,
toi.
Je suis pas un sportif, moi.
Il est long à se terminer ce podcast, non?
Ouais, bah on est bien.
Non, on est bien ensemble.
J'ai une question pour toi. Est-ce que tu vas faire le. Parce qu'il y a un projet de marathon possiblement en fin d'année.
Oui, en fait, il y a d'autres. En fait, il y a. Alors, Nike, il y avait le 10K, maintenant le trail. Et en fait, le prochain projet de Nike avec nous serait de faire un marathon pour les Jeux Olympiques.
Ouais. Wow. Et est-ce que tu.
C'est bientôt.
Oh, c'est dur, 40 km. C'est-à-dire qu'il faut que je fasse 4 fois le 10K là.
Oui.
Toi, tu sens le faire le marathon là ou pas?
J'espère.
Putain, bah, je vais essayer.
Ouais. Non, ça serait bien, tu vois.
Je vais essayer.
Le trail là, c'est combien?
Non, le trail, c'est dans les montagnes, mais je sais pas,
ouais,
on sait pas trop.
On part pendant 4 jours, mais on n'a pas de distance.
Ok,
exactement.
Ok.
Ouais, donc.
Ça,
bon.
C'est chaud, j'ai jamais compris ce truc. Courir dans les montagnes, ça me paraît bizarre.
Ça va être terrible, hein.
Ouais.
Mais bon. Oui, la dernière fois, on s'est quitté sur BTC et figurez-vous que je sais qu'il y a beaucoup de demandes pour que, faut que je me lance, sorte sur Spotify. Ce tube, n'est-ce pas, Aurélien? Toi qui adore voilà. Parler de rap.
Bien sûr, bien
c'est
sûr,
un tube, faut que je me lance.
Ah oui, c'est un tube, totalement.
Voilà, donc il se peut que je le mette sur Spotify dans peu de temps.
Faut que je me lance. Dans un putain de freestyle.
Oui, parce que j'étais rappeur avant.
Mais c'est ce que je crois comprendre. Donc
oui, non, en fait, quand j'étais au collège, j'ai sorti une mixtape. Et...
C'était sérieux?
Ouais, c'est
vraiment
vrai.
Une mixtape, carrément.
Non, c'est vrai, c'est vrai.
Avec combien
c'est
de
sons?
Avec
cette
c'est pas vrai, Aurélien?
Ouais.
Il y avait 7 sons.
Avec sa meilleure punchline, si je peux le dire. Ah. On a commencé au micro, maintenant on est dans un studio.
Incroyable.
C'est bien ça, hein?
Donc oui, Lélo.
Littéralement la même chose.
Lélo. C'était quoi ton blaze? C'était ton blaze, du coup?
BTC.
BTC.
Okay. Ouais, BTC.
Ton nom de rappeur?
Bruce Toussaint et.
Mais non,
non, pas Bruce. Barazer, Toussaint et Chabu, c'était nos noms de famille.
Ok.
Toussaint au micro.
On dénonçait pas mal de choses, comme les devoirs, par exemple.
Okay. Est-ce qu'on peut retrouver cette mixtape?
Elle a envie, hein, t'as envie d'écouter cette mixtape?
Bien sûr.
Bien sûr. Non, mais écoutez, attendez. Cette mixtape, je l'ai fait écouter à Mehdi Maizy et Aurélien Chapuis qui sont là. Ils ont pas trouvé ça si nul.
C'est vrai.
Hein, c'est vrai ou pas?
Ouais, c'est vrai.
C'est pas si nul.
Parce que tu penses que tu sais écrire, à mon avis, non?
Non, pas du tout.
Ouais,
allez, à l'époque, non, pas du tout.
Ok.
Quoi, ils sont pas dégoûtés, Guillaume? Que j'ai non, une que, carrière
que,
dans la chanson.
Non, mais tu demandes, tu dis, ouais, Aurélien et Mehdi, ils ont pas trouvé ça nul. Moi, t'as pas dit ce que j'en avais pensé.
Non, parce que toi, je sais que tu trouves ça nul.
Faut que je me lance. Un putain de freestyle.
Ouais, bon, allez, c'est bon.
Il y a quand même une chanson, une autre chanson qui est un peu genre avec une instru triste et tout. Et dedans, je dis. Pourquoi? Pourquoi après une journée d'école on va faire des devoirs? C'est pas une vie ça.
Non. Oh, wow.
En même temps c'est vrai, c'est pas une vie.
C'est pas une vie. Ouais.
Mais non, mais toute la journée t'es à l'école, tu dois faire des devoirs, c'est pas une vie. Bon,
je pense qu'à ce moment-là tu pensais à regarder le soleil quand même.
Oui, non mais on est tous des poètes autour de cette
voilà.
Table. T'es une poète toi, Sarah, un peu? T'es un peu.
J'ai eu 17 ans.
Bah oui,
c'est
ton philo.
Attendez, si vous suivez Sarah Auri sur Instagram, vous vous rendez compte que c'est une grande poète parce qu'elle fait des vlogs où parfois tu mets un petit délire poète quand même.
Ah, je dirais pas.
Si, il y a des images avec le avec le rideau et le vent et le soleil. Ah, ce matin,
vrai,
je me suis levé.
Oui. Non, je cherche à travailler l'esthétique.
Mais bien sûr, vrai, c'est un peu de la poésie tout c'est ça. Eh bien, écoutez, j'ai passé un très très bon moment avec vous. Merci Sarah d'être venue.
Avec grand plaisir.
Et puis voilà, on va se quitter comme ça. Un petit mot pour la fin, Sarah, non?
Bah franchement, ce podcast est vraiment pas sous-coûté.
Ah, wow. C'est le meilleur, bravo, bravo. C'est le meilleur mot de fin. Très bien, on se retrouve jeudi prochain. Bye tout le monde.
Tired of ads intruding into your favorite comedy podcasts? Good news. Ad-free listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Dive into a world of laughs by downloading the Amazon Music app for free or go to amazon.com/comedyadfree. That's amazon.com/comedyadfree to catch up on the latest episodes without the ads.